Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 24 novembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Ça va-t-il ?
Ça va très bien. Bon. On résiste.
Autour de cette table, au micro, Aux Micros, Monsieur René Prival, qui est secrétaire. Bon, je veux absolument l'appeler René. Là. Ça y est, c'est fini.
C'est pas grave.
Jusqu'à la fin de mes jeux, je l'appellerai René. C'est joli, René.
Ah oui, ma femme s'appelle René, bah, éventuellement.
Vous voyez ? Donc je me trompais de peu, quoi. Guy Prival. Dominique Tassot, c'est bien Dominique.
Oui, oui.
C'est pas votre femme qui s'appelle Dominique.
Non, ça pourrait.
Et Dominique Tassot, qui est le président du CEP.
Oui.
C'est ça, c'est président.
Ça, président.
Je, les titres, moi, je... Jacques Luminor, qui est secrétaire de Renaissance catholique, secrétaire colonel, parce qu'il n'est pas secrétaire général.
Absolument.
Victoria, est-ce que vous êtes
la FAT? Moi, je ne suis
FAT,
rien du tout.
Vous êtes la FAT de, du libre journal du mercredi. Ouais. Je signale à M. Verdier qui peut éteindre son poste parce que c'est moi ce soir. Ça lui évitera de m'envoyer des lettres désagréables. Écoutez donc ici maintenant ou Radio... Tiens, Radio Beurre, ça devrait vous plaire avec votre prénom. Voilà. Donc, continuons. Nous allons d'abord faire un petit tour de l'actualité qui est fort intéressante. Et je voudrais commencer, une fois n'est pas coutume, par rendre hommage au courage de M. Robien, qui est vraiment un homme comme je les aime, quoi, c'est-à-dire déterminé, dur, raide à la toile. Vous savez que Robien, il est ministre des Transports. J'espère que madame est contente. Et alors, il y a en ce moment une grève des camionneurs. Pourquoi vous voyez comme ça là, il y a une grève des camionneurs, enfin pas une grève, une manifestation des camionneurs qui affluait vers Paris. Alors Robien, il a dit, mon vieux, attendez, vous allez voir, ça va barder pour votre matricule et pour votre, même votre immatriculation. Si vous venez dans Paris, on vous retire votre permis de conduire. Alors, je suis très très content de voir que enfin ce gouvernement, qui passe son temps le pantalon sur les chevilles à, ou à plat ventre ou à quatre pattes, et en fournissant le matériel nécessaire, je suis très content de voir que, pour une fois, ils se prosternent pas. Hein. Ils se prosternent devant tout le monde, devant les homos qui exigent d'être reconnus comme la seule espèce humaine digne d'intérêt, devant les immigrés, devant les immigrants, devant les étrangers, devant devant tout, devant les Côtes d'Ivoiriens, devant Kadhafi, puisque Chirac va aller faire une bise à Kadhafi, il est parti pour ça, on aura tout vu vraiment. Alors, donc ce gouvernement, pour une fois, fait preuve de caractère. Là, les camionneurs, non, ça ne marche pas, vous ne pourrez pas entrer dans Paris. Donc, Parisiens, préparez-vous à sucer des cailloux, parce que si les camionneurs n'entrent pas dans Paris, on ne sait pas comment ils vont faire pour nous apporter de la nourriture. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est l'importance de cette position, parce que je peux vous dire que la prochaine fois que la CGT va décréter une grève des chemins de fer en pleine période des départs en vacances de Noël, le père Robien, il va leur dire « Je vous fous tous à la porte, les mecs, si vous prenez pas le boulot immédiatement. Sinon, on pourrait croire qu'il n'est fort que quand l'adversaire est faible. » Mais je suis sûr que c'est pas le cas. Je suis sûr que c'est un ministre de Chirac et de Raffarin, donc c'est un dur de dur. Et on peut vraiment compter sur eux pour remettre de l'ordre très rapidement à la prochaine grève de la CGT. On attend maintenant la grève de la SNCF, grève des postes. Parce que la grève de la SNCF, faut dire que le reproche que Robien fait aux camionneurs, c'est de bloquer Paris. Mais la grève de la SNCF, je sais pas si vous en avez déjà vu une, comme système de blocage, on peut difficilement rêver mieux. Eh bien, donc attendons les prochains départs en vacances de Noël, où les ordures communistes ne manqueront pas une fois de plus de nous faire le coup de la grève chantage. Eh bien, on verra à ce moment-là si Robien sera aussi musclé devant l'ordure communiste que devant les petits camionneurs qui sont des entrepreneurs privés et qui donc ne méritent que le mépris et la haine du pouvoir, alors que la fonction publique, tout le monde a plat ventre, comme d'habitude. Je voudrais saluer aussi les gens qui, tous ces démocrates qui, quand les résultats des élections leur plaît pas, décident que les élections ne sont pas régulières. Puis je sais pas comment les gens peuvent savoir qu'en Ukraine ça s'est mal passé. D'abord parce que dans ces pays-là, pendant 70 ans, les élections ont toujours été truquées et que personne s'en est ému. Quand c'était les communistes qui truquaient les élections, ils trouvaient ça très bien. Maintenant que c'est plus les communistes, ils trouvent que c'est vraiment un scandale et ils ont constaté que ça avait été truqué. Je ne sais pas d'où ils le tiennent. Ce qui est curieux, c'est que le seul argument qu'on retrouve absolument dans toute la presse écrite et orale et télévisuelle, c'est que ils ont voté jusqu'à 40 fois. Tout ça vient du fait qu'un type a raconté sur une radio qu'il avait vu un Ukrainien voté 40 fois dans plusieurs villes différentes. Alors, si vous essayez de réfléchir à ce que ça veut dire que le journaliste en question, il s'est attaché, comme par hasard, au basque d'un Ukrainien qui a réussi l'exploit, quand même, parce que c'est formidable, hein, en 8 heures, de se déplacer dans plusieurs villes différentes pour voter dans 40 bureaux de vote différents. C'est Speedy Gonzalez, le gars, hein. Personne n'a fait l'effort de réfléchir au fait que c'est tout simplement impossible une chose pareille. Et quand même ça serait passé une fois, ça ne veut pas dire que les élections sont truquées. En tout cas, elles ne sont pas plus truquées qu'aux États-Unis, où je vous rappelle quand même que Bush avait été élu avec moins de voix que son adversaire, ou qu'en France, où Chirac a obtenu 85% de 19% des électeurs, ou peu s'en faut, ce qui ne donne absolument aucun sens à son élection.
Oui, mais évidemment, l'Ukraine, c'est truqué vers des procédés artisanaux, c'est évidemment plus facile à détecter.
Si, c'est truqué, moi je n'ai pas de preuves, moi. On me dit que c'est truqué, mais pourquoi je les croirais plus quand ils me disent ça, que quand ils me disent autre chose? Toute la presse ment à longueur de temps, tous les hommes politiques mentent à longueur de temps, ils ne savent faire que ça. Alors pourquoi je ferai crédit à leur déclaration sur les élections en Ukraine, alors qu'ils n'y étaient pas pour commencer, que d'autre part ils n'ont jamais dénoncé le trucage des élections pendant la période communiste, et que d'un seul coup ils se réveillent, et que quand il va y avoir des élections en janvier en Irak, et vous croyez qu'elles vont pas être truquées? Se fout du monde, c'est la démocratie qui est pourrie. Si on arrête de truquer les élections, tout le système s'effondre. Ils sont bien obligés. Voilà. Alors Chirac, lui, va en Libye, va faire la bise à Tripoli. Tripoli, pour être honnête, évidemment, ça s'impose. Et c'est quand même formidable. Vous savez qu'il y a une légende qui court avec beaucoup de vraisemblance sur Kadhafi. C'est que Kadhafi serait le fils naturel d'un officier aviateur français qui était en poste en Tripolitaine à l'époque. Et à Minute, dans le temps, à l'époque où Minute était Minute, on avait publié la photographie du père putatif supposé, présumé de Kadhafi. C'était stupéfiant, parce qu'il était en uniforme d'aviateur, avec sa belle casquette en forme d'assiette renversée. Et c'était le sosie absolu de son fils. Donc, entre fils naturels, ils vont se retrouver en tripolitain, parce que Chirac n'est pas non plus le fils de Chirac, mais le père ne le sait pas. Vous savez qu'il est fils d'un républicain espagnol, c'est Fersan qui nous a expliqué ça plusieurs fois, il a apporté les preuves. Enfin, les preuves. Les présomptions. Enfin, les présomptions. Les suppositions. Voilà, donc c'est une réunion de bâtards. Je vois que Mahmoud Abbas, je ne sais pas si vous connaissez Mahmoud Abbas, non, ça vous intéresse pas. C'est un, il semblerait que ce soit un successeur de Saint Yasser Arafat, car Yasser Arafat est carrément canonisé maintenant. Hein. On voit sa photo. Je ne sais pas comment. Vous savez qu'on fait des miracles avec la photographie. J'ai vu tout à l'heure sur le net, sur Internet, une photographie d'Arafat. Il était presque normal, puis il avait un visage presque humain. C'était étonnant ce qu'on arrive à faire avec la photographie. Eh bien, donc Mahmoud Abbas, qui est le successeur du... défend le droit au retour. On devrait le faire venir en France. Hein ? On pourrait le défendre le droit au retour aussi. Mais lui, c'est le droit au retour des Palestiniens. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde défend le droit au retour des Palestiniens et personne défend le droit au retour des Algériens. Je ne vois pas pourquoi, comme disait le Belge, si vous avez perdu la guerre, pourquoi vous avez gardé les prisonniers ? Hein ? Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un droit à retour pour les Algériens ? C'est injuste. Et je vois également qu'il y a une annonce qui est fort intéressante, c'est on signale le premier recul de Raffarin. D'où la fameuse chanson. C'est le premier recul clair et net imposé au gouvernement sur la question des retraites. Vous savez que Raffarin il voulait carrément supprimer les retraites aux veuves, ça revient à ça en gros, hein. C'est les retraites de reversion. Et alors, on lui a fait valoir des arguments qui ont emporté finalement sa décision de renoncer, en tout cas de remettre l'opération à plus tard, parce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait remarquer que ça prenait effet, le projet était prévu pour prendre effet en juillet 2006. C'est-à-dire, c'est 10 mois avant les élections présidentielles. Et d'où il a trouvé que finalement, c'était pas une si bonne idée que ça. Pour des gens purement comptables, bien entendu. Hein. Donc c'est remis. Mais vous allez l'avoir dans le dos. Vous pouvez vous y attendre. Ils vont le refaire, c'est absolument certain. Et si vous ne le croyez pas, il faut vous référer à la décision qui a été prise cette nuit en grand silence à propos des homos. Vous savez qu'il y avait une loi qui avait été proposée, qui avait été projetée, disons, pour interdire tout propos homophobe, et que le CNDH, le Comité National des Droits de l'Homme, a fait valoir que c'était pas une bonne idée parce que ça finirait par rendre à peu près impossible toute conversation sur quelque sujet que ce soit, parce que comme on n'a déjà pas le droit de dire quoi que ce soit de désagréable sur les Israélites, les Arabes, les Noirs, même les catholiques finissent par être défendus du coup. Je sais, puisque en tant que vice-président de la Griffe, je sais bien que nous aussi on fait des procès, qu'on perd d'ailleurs, mais enfin on fait des procès. Ça embête nos adversaires, c'est déjà ça de gagner. On perd pas tout, mais enfin on en perd beaucoup. Et alors maintenant les homos, bientôt ce sera les percepteurs, parce que je vous signale que le fonds de commerce des blagueurs, c'est les homos, les percepteurs et les belles-mères. Donc on a, ça y est, les homos, ils ont dit on peut pas interdire les homos parce qu'après il faudra interdire de blaguer sur les percepteurs et sur les belles-mères. Et puis les blondes. Non, les blondes, on a le droit, ça.
Il y aura les Belges, quand même.
Oui, les Belges, mais ça, les Belges, je dirais que ça finit par tourner à leur avantage, parce que vous savez ce qu'ils disent, c'est que si vous racontez, vous, les Français, autant de blagues sur les Belges, c'est parce que c'est les seuls que vous compreniez. Voilà. Et ils ont bien raison, en plus. Moi, je suis belgophile. Je préfère être belgophile. Je voudrais bien échanger une immigration massive de Belges francophones contre une immigration massive d'autres francophones dont j'ai moins besoin d'urgence. Mais la proposition n'est pas faite. Alors, donc, ils ont annoncé que finalement, ils avaient renoncé à cette loi anti-homophobe. Or, cette nuit, le Sénat a voté 2 amendements dans le cadre d'une loi complètement étrangère, comme d'habitude, ils font toujours ça, à la cause, d'où il ressort que, évidemment, les associations de d'homos auront le droit maintenant de porter plainte quand elles se considéreront comme insultées. Alors, ça pose quand même un double problème. Le premier problème que ça pose, c'est un problème de sémantique. C'est-à-dire qu'homophobe, ça ne veut strictement rien dire. Homo, ça veut dire semblable, et phobe, ça veut dire crainte, dégoût, répulsion, etc. Mais plutôt crainte. Donc l'homophobe, c'est celui qui craint son semblable. On peut dire aussi misanthrope. Alors, homophobe, c'est un mot fabriqué par des imbéciles, comme d'habitude, à partir de homosexuel, qui veut dire celui qui est porté à avoir une activité sexuelle à son semblable, et phobie, qui veut dire la crainte. Donc, il faudrait dire homosexuelophobe. Mais c'est trop long pour ces petites têtes. Ils ont un vocabulaire de base de 250 mots, ils ne peuvent pas bien retenir la chose. Donc, ils ont fait homophobe, ce qui n'a aucun sens. Autrement dit, comment on ne peut pas définir la chose ? C'est assez difficile de la poursuivre, puisque n'importe quel avocat moyennement doué pourra plaider que, étant donné que le mot lui-même n'a pas de sens, c'est assez difficile de le charger de tous les péchés d'Israël. Hein ? Un mot qui veut rien dire, parce qu'on peut être aussi... si vous êtes gloubard, vous serez condamné lourdement. Alors dites ce que c'est gloubard, ben on décidera après la condamnation. Voilà.
Comme ça, mais ce qui est dangereux, c'est que, comme pour le cas du racisme, ce sont eux qui décideront qu'ils se sont visés.
Voilà.
Alors, ça, c'est la première chose.
Et bien, la deuxième chose, c'est quand même que maintenant, c'est banalisé, l'homosexualité. C'est-à-dire que personne n'oserait dire que c'est pas normatif. Hein. Bon. Alors, autrement dit, on dit c'est tout à fait normal d'être homo, mais c'est extrêmement insultant de traiter quelqu'un d'homo. Ça, c'est comme l'histoire des races. Les races n'existent pas, mais il y a quand même une loi contre les gens qui attaquent les autres au motif de leur race. Donc tout ça est complètement incohérent. Parce que on peut pas à la fois prétendre que l'homosexualité est quelque chose de normal et prétendre que accuser quelqu'un ou taxer quelqu'un d'homosexualité, c'est une injure. Parce que moi, si on me traite d'hétéro, je vais pas faire de procès.
Hein. Oui, mais les races existent quand même aux États-Unis, où par exemple dans le domaine du médicament, les Noirs exigent qu'on fasse des protocoles sur
populations spécifiques. Je prétends pas du tout que les races n'existent pas. Je dis simplement officiellement en France, on nous bassine. J'ai entendu encore Monsieur Bébéard, tiens, voilà, un joli personnage aussi, hier matin sur Europe 1, qui disait carrément que ce qu'il en sait, c'est imbécile, que les races n'existent pas. Voilà, il a décidé que les races n'existaient pas. C'est Monsieur Bébéard. Bébéard, qu'est-ce qu'il est ? C'est un ancien politicard qui est reconverti dans les assurances. Évidemment, ça ne le qualifie pas spécialement pour parler de ce genre de sujet, mais il a décidé ça. Donc, on est bien d'accord, comme c'est Bébéard qui décide que les races n'existent pas, ou Fabius, ou je ne sais quel chien coiffé, donc ça n'existe pas. Et alors, maintenant, il faut m'expliquer comment on peut être raciste quand les races n'existent pas. C'est compliqué, leur histoire. Voilà. Donc, Raffarin a reculé sur la question des retraites. Je vous le signale, Mesdames les veuves et messieurs les veufs, si vous touchez, vous allez encore toucher jusqu'en juillet 2006. Parce qu'après, vous pouvez être tranquille. Après les présidentielles, c'est-à-dire en 2007, donc vous ne toucherez plus rien. Parce que ça sera la première décision prise. J'ai appris aussi que le Clémenceau est à Toulon. Ouais. Ils sont en train de le désamianter. Ça, l'histoire du Clémenceau. Je pense qu'un jour, un journaliste intelligent et avisé fera un livre sur l'histoire de la fin du Clémenceau. Est-ce que ça a coûté ? Et surtout, si on pouvait savoir qui s'en est foutu plein les poches avec cette histoire, parce que le désamiantage a coûté une fortune absolument colossale. Mais avant ça, je vous rappelle quand même que le Clémenceau, il a fait pratiquement le tour du monde quand il était parti pour être désamianté, et qu'on s'est aperçu après son départ qu'il était plein d'amiante et que donc il ne pouvait pas aller sur les mers, qu'il fallait le ramener d'urgence à son port d'attache. Donc on ne pouvait pas le joindre, on a envoyé des bateaux le chercher. Vous vous rappelez, c'est pas si vieux que ça. Hein. Il faudrait savoir qui s'est goinfré là-dedans. Je pense qu'il doit y en avoir plus d'un qui se sont mis un petit peu d'argent dans les poches. Je vous signale qu'on parle beaucoup d'un film de monsieur Bertrand Tavernier qui s'appelle Oli Lola. Alors, je vous dis une chose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, enfin du mercredi soir, quand vous allez voir Oli Lola, vous payez, vous donnez du fric à l'humanité, pas à l'humanité souffrante, à l'humanité, le torche-fion du Parti communiste. Je vous le signale parce que M. Bertrand Tavernier a déclaré à l'Humanité qu'il était très attentif au sort de l'Humanité et qu'il a abonné des personnes et offert des abonnements à l'Humanité. Donc dites-vous que votre fric, quand vous allez voir Oli Lola ou les films de M. Bertrand Tavernier, ça permet à l'Humanité de continuer à crever encore plus lentement que la normale. L'Humanité devrait avoir crevé depuis longtemps si elle n'était pas soutenue par des publicités du genre RATP. Pour le métro, choisissez la RATP. Ou n'achetez le gaz qu'il y a Gaz de France. Ou votre électricité, CEDF. Ou pour les remboursements maladie, voyez la Sécurité sociale. Vous avez des enfants, c'est les allocations familiales qui vous donneront de l'argent. Tout ça, c'est des pages entières dans l'Humanité. Et c'est naturellement indispensable, parce que vous comprenez, le type qui se dit, mais où est-ce que je pourrais bien me faire rembourser mes frais de maladie, hein, je pourrais aller, je sais pas, aux Galeries Lafayette, mais non, ils voudront pas, on sait pas, très intéressant. Le seul truc, c'est la Sécurité sociale. Donc ça, c'est de la publicité utile, hein. Eh bien, même cette publicité-là, qui est déjà volée dans votre poche, faite avec de l'argent volé dans votre poche de contribuables, d'usagers de l'EDF, parce que ça leur suffit pas aux communistes de voler l'argent de l'EDF à travers le CCRS, à travers le 1% du CCRS. Vous savez que le CCRS est financé, le comité des œuvres de l'EDF, le comité d'entreprise EDF, est financé avec 1% du chiffre d'affaires, pas du bénéfice, du chiffre d'affaires d'EDF. C'est le comité d'entreprise le plus riche du monde. Ils sont milliardaires en euros. Ils ont des propriétés partout en France et à l'étranger. Et même des propriétés secrètes. J'étais récemment en Vendée, où un ami m'a emmené visiter une espèce de petit truc complètement paumé, où il y a une plaque au milieu d'un bois, il y a un étang, enfin un lac, un petit lac, ravissant, interdit d'accès partout, barbelés, machin, etc., portes verrouillées, etc. Mais cet ami, qui est un enfant du pays, connaît les passages secrets, donc il m'a emmené. Alors, à l'entrée, il y a une toute petite plaque, propriété du CCAS, et on entre, et à l'intérieur, il y a une fabuleuse baraque qui doit appartenir à un cacique du parti, au bord de ce petit lac, totalement isolé, mais à 1 kilomètre d'un village. À 1 kilomètre d'un village qui s'appelle Lusignan, je crois. Donc voilà à quoi sert le fric du CS. Ça leur suffit pas. Il faut en plus qu'ils fassent de la pub dans l'Humanité. Enfin, plus exactement, que EDF paye l'Humanité avec de la pub bidon, puisque vous voulez acheter votre électricité à qui sinon à EDF.
C'est peut-être que les lecteurs de l'Humanité sont pas très futés.
Ça, c'est une éventualité que je ne saurais écarter, oui, effectivement. Voilà, donc, alors, si vous allez voir Oli Lola, vous serez content de savoir que vous participez à la survie artificielle de ce crevard qui est l'Humanité. On découvre, effectivement, aussi que les parlementaires sont globalement satisfaits, les parlementaires UMP sont globalement satisfaits. C'était Marché qui disait ça, le bilan global est positif. Le bilan global du communisme est positif, disait Marché. Les parlementaires UMP disent que le bilan global de Chirac est globalement satisfaisant. Mais c'est pas uniquement pour ça qu'ils le disent, c'est justement à propos de cette loi contre l'homophobie. Ils sont globalement... Alors, c'est vraiment des abrutis, parce que ils croient sincèrement que Raffarin a tenu promesse, a tenu parole, et que la loi a été annulée. Alors, ils ont dit qu'ils étaient... en décidant de retirer de l'ordre du jour de l'Assemblée le projet de loi contre l'homophobie, le gouvernement a fait un choix qui apaise les marques de défiance qui se manifestaient depuis quelque temps à ce sujet. Et pendant ce temps-là, au Sénat, ils votaient des amendements à une loi qui supprimait absolument tout effet au retrait de la loi anti-homophobie, puisqu'elle sera en fait appliquée à travers ces amendements cachés. Voilà, si vous avez l'impression que les hommes politiques vous prennent pour des imbéciles, vous avez gagné, vous avez même le droit de revenir en deuxième semaine. Et surtout, réservez-vous de voter à la prochaine élection, parce que c'est quand même vraiment très très intéressant de voter. C'est d'une utilité que vous pouvez constater. Hein, si vous avez voté, par exemple, si... Vous avez voté Chirac, hein, la dernière fois, en disant Chirac, c'est un homme de droite, quand même, même s'il est comme ça, un peu. Bon, ça, alors, vous voyez, vous avez voté Chirac, et vous avez donc élu un type dont la fille, qui est la collaboratrice principale, est devenue depuis quelque temps la marraine de Pink Télé, la télévision des invertis, et également qui est, elle, une membre de la Ligue, enfin de je ne sais quelle organisation trotskiste, trotsko-lambertiste ou je ne sais quoi. Vous avez bien eu raison de voter contre la gauche, parce que c'est l'extrême-gauche que vous avez au pouvoir. Voilà ce que je voulais vous dire de l'actualité, qui est intéressante et revigorante. Il y a quand même une belle information aussi que je voudrais vous lire. C'est la suivante. Dans Le Monde, il y a un article, Le Monde, c'est vieux, il y a un mois, il y avait un article intitulé « Satan a droit de cité à bord des navires britanniques » qui expliquait qu'un marin, qui s'appelle Chris Kramer, ce qui, à mon avis, quand on s'appelle Kramer et qu'on devient membre d'une secte satanique, ça me paraît à la fois assez imprudent et anticipatif. Vous voyez. En tout cas, ce monsieur Kramer, il a créé une secte, enfin il fait partie d'une secte satanique, des disciples d'Anton Lavey, et donc il a exigé, au titre de la laïcité ou de la liberté du culte, d'être reconnu comme adepte d'un culte autorisé. Donc il a obtenu ça, après avoir découvert sa foi, à l'âge de 15 ans, en dévorant la Bible satanique. Apparemment, ça lui a pas donné d'indigestion. Et voilà, il y aurait au Royaume-Uni, alors écoutez bien la précision de la statistique, entre 100 et 4000 adeptes de cette église dont on découvre parfois les activités à travers des restes d'animaux morts, vestiges d'une récente activité satanique, nous dit le journal, etc. Bon, c'est une religion effectivement très sympathique, on peut le dire, mais c'est tout ça, bon, évidemment ces gens sont des cinglés, quoi, voilà, ça s'arrête là. Mais ce qui est très intéressant, c'est que voilà la chute de l'article du Monde. Ce satanisme-là s'apparente à une forme de libre pensée, fustigeant toutes les formes d'hypocrisie. C'est formidable, il y a une religion qui fustige toutes les formes d'hypocrisie, pas quelques pas, toutes. Et comme par hasard, c'est la religion sataniste. Hein? C'est l'opinion du Monde. Le Monde trouve que vraiment, monsieur Jean-Pierre Langelier du Monde, trouve que le satanisme, c'est une façon de fustiger toutes les formes d'hypocrisie. Ça m'étonne pas d'ailleurs de la part d'un journaliste, parce que un journaliste il doit être contre l'hypocrisie, et donc il peut être que sataniste.
Hein,
un journaliste qui se respecte. Oui, non, mais ça fait pas peur, le travail du sataniste, ils n'ont pas peur, hein. Parce que une cérémonie satanique, c'est quand même un petit peu compliqué à mettre sur pied, il faut trouver des enfants à éventrer, des trucs comme ça, c'est très con. Ça se fait pas sous le pied d'un cheval. Hein. Voilà. Donc si vous voulez lutter efficacement, fustiger toutes les formes d'hypocrisie, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne sais pas si l'église de M. Anton Lavey est représentée à Paris. Je crois qu'elle avait un centre du côté de la porte de Choisy, là-bas, ou porte d'Ivry. Mais malheureusement, le propriétaire, enfin le gérant, a été assassiné par sa femme qui est devenue folle. Enfin, une histoire compliquée, quoi.
Normal.
Hein?
Normal.
Non, c'est pas normal. Faire un sataniste qui devient fou, ça me paraît quand même assez aventureux, parce que, en réalité, pour être sataniste, il faut déjà l'être complètement, j'y vrai. Donc, une fois que c'est fait, c'est pas la peine d'en faire plus. Voilà. Bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Est-ce que nous avons le marquis? Non, le marquis.
Vous
voilà. Alors, oui, il faut que je vous explique quand même. Oui.
Explique.
Oui, j'explique en deux mots. Maintenant, c'est toutes les radios ont des grands reporters, des envoyés spéciaux et tout. Et donc, j'avais demandé au marquis de faire aujourd'hui un travail de grand reporter et d'envoyé spécial, assez dangereux d'ailleurs, parce que il était parti dans un endroit risqué. Et on essaye de le joindre. J'espère qu'il lui est rien arrivé, qu'il a pu l'avoir reçu, je sais pas quoi, il a pas avalé de travers une cacahuète, par exemple. Parce qu'il était à une grande soirée organisée en l'honneur de, je sais pas, le centième anniversaire enfin un anniversaire quelconque à propos de Kurnonsky, le célèbre gastronome. Alors ça peut pas être le centième anniversaire de sa mort, c'est peut-être le centième anniversaire de sa naissance, ça me paraît douteux aussi. Enfin un anniversaire quelconque. Et voilà qu'on n'a plus de nouvelles de lui, il a disparu, je pense que alors ou il a été tué par un bouchon de champagne entre les deux yeux, ou il a avalé de travers une cacahuète, on sort là. Donc voilà, notre grand reporter sur le front de la haute gastronomie a disparu.
Nous vous tiendrons
victime
au courant
de son devoir.
Pendant l'émission.
C'est pas Chénaud et Malboron, non. Comment ils s'appellent les gars qui sont en Irak, là.
Oh, je ne sais pas.
Vous savez pas. Peut-être comme moi, vous en foutez.
Complètement.
C'est bien, c'est de la solidarité, ça, je ne m'y connais pas.
Vous me faites dire ce que je ne pensais pas du tout. Je pensais à autre chose, je pensais au message que vous avez reçu, parce que vous vous faites quand même rappeler à l'ordre.
Bon, c'est bien.
Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a plus de communistes? Je ne vous comprends vraiment pas du tout. Vous dites n'importe quoi en minimisant une chose aussi grave.
Est-ce que j'ai dit une seule fois qu'il n'y a pas de communistes? Je vous donne $1 million si vous me montrez, vous me faites entendre l'enregistrement de ce début d'émission dans lequel je dis qu'il n'y a plus de communistes. Alors là, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que le journal L'Humanité était en train de crever. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communistes. Simplement, ils sont devenus encore plus bêtes qu'avant. C'est-à-dire que maintenant, ils ne savent même plus lire. Ils sont bloqués devant Starak. Et ils ne lisent pas. Il n'y a que les gens droits qui lisent.
Hein? Je ne me regardais pas d'un air soupçonneux, je ne regarde pas Starak.
Vous faites ce que vous voulez de votre vie privée.
Et une auditrice vous dit, moi, pour couper court à tous les malentendus à propos des homosexuels, j'utilise le terme inverti.
Oui, voilà. Inverti, antiphysique.
À propos, Monsieur Delanoë, lui, il est autophobe, car il déteste les automobilistes. À quand une loi contre l'autophobie?
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Et dans le Figaro d'hier, il y avait un article « Air vicié dans les églises ». On pourrait être asphyxié, avec des risques même de tumeurs cancéreuses, à cause des cierges. Et qui dit ça? Le Figaro, non pas Libération ou Le Monde, souligne notre auditeur.
Mais je vous signale qu'il y a aussi des bougies dans les synagogues. Hein. Seulement, c'est des bougies spéciales. Elles n'émettent pas de gaz asphyxiant. Tandis que dans les églises, on risque de crever. C'est-à-dire que quand vous promenez dans la rue, par exemple, rue Lafayette, vous voyez, vous remontez la rue Lafayette, là, vous risquez rien. Mais si vous rentrez à Saint-Vincent-de-Paul, où il y a 3 bougies qui brûlent dans un coin, alors là, vous risquez vraiment votre vie. Tandis que les 250 000 voitures qui circulent en ligne sur la rue Lafayette, ça, c'est pas risqué du tout. Mais vraiment, je vous dis, le journalisme est devenu un métier de envahi par les crétins. Hein.
Et un auditeur, alors qui est un auditeur sérieux, vous dit, que pensez-vous du débat entre Fabius et Strauss-Kahn, dont les médias nous bassinent depuis 15 jours?
J'attends que M. Hollande ait donné sa position, parce que je trouve que le débat est incomplet. Vous voyez, il y a Fabius, il y a Strauss-Kahn, il y a Hollande, il y a Lang qui devrait parler aussi. Il paraît que M. Sarkozy aussi va s'exprimer. Après tout ça, il n'y aura plus qu'à attendre qu'il se décide, quoi. Hein?
Vous
savez ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? Ils ont un point commun. C'est qu'ils ne sont pas d'accord sur l'Europe.
Oui, mais ils sont tous pour l'Europe.
Oui, ils sont tous pour l'Europe, oui, mais pas de la même façon. Ah non, pas tous. Non, non.
Et alors, je ne sais pas pourquoi cet auditeur demande, pouvez-vous nous donner des nouvelles de Nicolas Miguet?
Qui?
Nicolas Miguet.
Je ne sais pas qui c'est.
Moi non plus.
Dans le temps, il y avait un type qui était... Oh, je crois qu'il est sorti de prison maintenant.
Oh, je ne sais pas.
Si, il me semble.
Je ne suis pas des chroniques...
Si, je crois qu'il est sorti. Oui, il est sorti.
Voilà. Bah, pour le moment...
Mais je n'ai pas de nouvelles. Non, il me... Je ne sais pas pourquoi on demande ça.
Bah, je ne sais pas, moi non plus.
Ah, c'est le mec qui faisait un journal, le journal de Miguet.
Ah,
oui, c'est le
club Miguet, mais bien sûr, d'accord.
Qui était candidat à la présidentielle.
Oui, Miguet. Oui.
Mais j'ai vu des affiches de lui il n'y a pas très longtemps.
Ah oui, pour le club Miguet. Ah oui, je ne sais pas. Non, ça ne m'a pas frappé.
Eh bien, voilà. Alors,
c'est tout?
Mais c'est, chers auditeurs.
Bon, c'est bien.
Monsieur de Becquet, je suis dans la tristesse. Il ne peut pas répondre à votre question.
Ben oui, mais on ne peut pas connaître tout le monde non plus. Il y a quand même 55 000 détenus en France. Comment vous voulez tous les connaître? C'est pas possible.
Difficile.
On peut pas. Et puis ça rentre, ça sort, on sait jamais. Donc comment voulez-vous? Moi, j'ai pas d'informations précises à donner sur sur cet individu. Je le regrette parce que ça m'intéresserait de savoir, mais non. Voilà. Donc, je voudrais quand même lancer un appel. Et là, je suis très sérieux. Il y a un véritable scandale, une fois de plus, scandale médical, ou plutôt un scandale médico-financier, c'est l'affaire de l'arrestation du docteur Hammer. C'est une nouvelle affaire Le Ribot, une nouvelle affaire Beljanski, enfin une nouvelle affaire Scoï, Et dans le cas du docteur Hammer, c'est quand même fantastique cette affaire. Le docteur Hammer est quelqu'un qui a appliqué, qui a proposé des thérapies non conventionnelles pour soigner les malades. Et il n'a jamais exercé en France. Jamais. Or, il est poursuivi par la mafia des politicas et des grands labos pharmaceutiques. Parce que, naturellement, les solutions thérapeutiques qu'ils proposent sont des solutions, comme je l'ai dit, inhabituelles, enfin, qui ne font pas appel à l'arsenal thérapeutique habituel, oui, autrement dit, qui ne font pas gagner de fric.
C'est très économique, oui.
C'est très économique, ça ne fait pas gagner de fric au labo. Et donc, il vivait en Espagne. Il a été arrêté en Espagne le 9 septembre. Après avoir été condamné le 1er juillet dernier par la cour d'appel de Chambéry à une peine de 3 ans de prison pour exercice illégal de la médecine. Il doit être prochainement extradé vers la France où il purgera sa peine. Or, il n'a jamais exercé en France. Je ne comprends pas pourquoi le tribunal de Chambéry l'a condamné, mais...
Oui, mais c'est parce qu'on considère que les conseils qu'il donne ont induit des patients à se mettre en danger puisqu'ils n'ont pas appliqué les chimiothérapies conventionnelles.
Tandis que les gens qui utilisent les chimiothérapies conventionnelles, il n'y en a jamais qui meurent.
Non, mais ils meurent d'autre chose.
Oui, c'est ça. Mais ils ne meurent jamais. Car le traitement contre le cancer, il est le traitement officiel contre le cancer. Hein, chimiothérapie, radiothérapie et chirurgie, vous pouvez être tranquille, ça ne rate jamais. La seule chose qui tue des gens, c'est Beljanski et Hammer. Les gens comme eux, c'est des dangers publics. Hein. Mais si vous allez à Villejuif, tiens, vous savez pourquoi Arafat est mort ? Brutalement, parce que le médecin est venu le voir, lui a dit, cher Arafat, on va être obligé de vous transporter à Villejuif. Voilà. En tout cas, pour en revenir à l'affaire Hammer, bon, je voudrais arrêter de blaguer parce que Hammer, c'est très grave. Il est en taule, le pauvre docteur Hammer. Et c'est un type très bien. Il faut vraiment prendre sa défense. C'est un scandale invraisemblable, cette histoire. Jusqu'à quand va-t-on être soumis à une justice qui obéit à des politicards qui sont corrompus par les grands laboratoires pharmaceutiques ? Et qui tue les gens. Il y a des gens qui meurent de ça. En ce moment, il y a une affaire énorme. J'espérais que le docteur Planté pourrait venir nous en parler, mais apparemment, il est retenu. Une affaire énorme autour du traitement du cholestérol, un médicament dont on a découvert qu'il avait provoqué des dizaines de milliers de morts par crise cardiaque, par encéphalite, par je ne sais quoi, alors qu'il est censé guérir le cholestérol. Mais évidemment, le meilleur moyen de guérir le cholestérol, c'est de tuer le malade. Comme ça, il n'y a plus de cholestérol. Alors, non, on peut dire, effectivement, quand il y a 20 000 morts, il a sauvé 20 000 personnes qui risquaient de mourir du cholestérol, parce qu'elles sont mortes d'autres choses entre-temps.
On peut lui écrire, mais... Alors, disons, alors ils l'ont transféré de prison pour que les premières lettres ne lui arrivent pas, mais on a son adresse.
Etc. Alors, j'ai une adresse, mais je ne sais pas si c'est l'ancienne ou la nouvelle, ça doit être la nouvelle. C'est... Non, c'est pas l'adresse de... Alors, d'autre part, il faut quand même que je précise que Hammer, il a pris des avocats, ce qui est la moindre des choses, mais il faut l'aider à payer ses avocats. Donc, si on veut l'aider, mais je ferai une émission plus complète sur lui, on peut participer aux frais de sa défense, qui tournent autour de 30 000 euros, pour l'instant, en envoyant des virements ou un chèque à une adresse que je ne vais pas vous donner là, parce qu'elle est vraiment trop compliquée, elle est... interminable et compliqué, et je publierai donc dans le prochain numéro du Libre Journal cette adresse et l'adresse à laquelle on peut lui écrire également, donc l'adresse du compte sur lequel on peut verser de l'argent pour l'aider à assurer sa défense. Mais il faut défendre cet homme qui est un bienfaiteur de l'humanité, qui est quelqu'un de courageux et de simple, qui n'a jamais fait de mal à personne, contrairement à tous ces salopards qui vendent des poisons épouvantables. Là, je peux en parler savamment quand même, parce que moi, j'ai vu ce que c'était que la chimiothérapie, les résultats de la chimiothérapie. Je peux vous dire que c'est une véritable catastrophe. C'est les effets secondaires de la chimiothérapie 10 ans après. C'est quelque quelque chose d'inimaginable sur la fragilité capillaire, la disparition des terminaisons nerveuses. Enfin, ça provoque des véritables des conséquences extrêmement lourdes. Alors, on peut dire effectivement que ça guérit le cancer. Bon, peut-être. Ça, je ne le nie pas. Mais si on n'a pas le souci d'accompagner ces traitements, de compléments, notamment le Belzhansky, qui permet d'affronter la radiothérapie et la chimiothérapie avec beaucoup plus de résistance, eh ben on est très 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 mal, très malade. Et c'est scandaleux d'envoyer un médecin, enfin, il faut être fou furieux pour mettre un médecin en prison pour exercice illégal de la médecine.
Alors évidemment, Amer a un petit peu aggravé son cas en faisant circuler des lettres, j'en ai eu par internet, j'en ai reçu une comme ça, dans laquelle il se considère comme poursuivi par un lobby qu'il qualifie. D'une communauté qu'il considère comme trop influente sur les médicaments, etc.
Ouais, alors, évidemment, enfin, ça c'est un autre problème.
C'est quand même joué comme un facteur déclenchant, parce que ce qui est étonnant quand même dans son cas, c'est l'extradition.
Oui, c'est ça. Alors, il a été extradé. Alors,
voilà, je trouve ça de l'Espagne, l'extradition.
Il est en maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Docteur Amer, parce que les prénoms Rick Gerd, c'est peut-être pas indispensable, donc Amer, H-A-M-E-R, numéro d'écrou, 334 750 D comme Dominique 5, 334 750 D comme Delta pour les pilotes, 5, je le répète encore une fois, numéro d'écrou 334 750 D 5, 7 avenue des Peupliers, 91-705, Sainte-Geneviève-des-Bois. Voilà. Donc, si vous voulez lui écrire, vous pouvez lui écrire à cette adresse. Également, je signale qu'il y aura une messe d'intercession, si j'ose dire, qui sera dite à Saint-Nicolas-du-Chardonnay le 21 décembre prochain à 7h45. Ça, c'est... Ça rend le sacrifice encore plus dur, hein, parce que 21 décembre à 7h45, il y a quand même des occupations un peu plus plaisantes que d'aller se cailler dans la rue. Mais voilà, 21 décembre, 7h45, Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Alors, n'envoyez pas de colis, ils sont retournés à l'expéditeur, nous dit notre correspondant, sans autre forme de procès. Heureusement d'ailleurs, parce que si en plus on avait des procès, voilà. Alors je vous invite à agir, ceux qui sont intéressés à ces questions, je les invite à agir et j'inviterai prochainement des gens qualifiés pour parler de ce scandale amer qui est vraiment quelque chose d'inimaginable. On ne peut pas admettre que dans un pays où on prononce des non-lieux dans des procès pour des gens qui ont littéralement pillé les caisses de la ville de Paris sous prétexte de frais de bouche pour se bourrer les poches avec de l'argent volé, ceux-là, ils ont un non-lieu. Et un médecin qui est poursuivi pour exercice illégal de la médecine, il est enfermé en prison depuis des mois. Mais comment les Français peuvent-ils tolérer ce genre de choses? C'est... Voilà, une fois de plus, un pays de fous. Un pays de fous.
Enfin, des escrocs,
dirigés par des, une bande de fous dirigée par des escrocs.
Oui, plusieurs auditeurs vous demandent si vous êtes au courant et si vous pouvez expliquer la question des CV, vous savez, les curriculum vitae qui doivent devenir anonymes.
Oui, ça c'est une idée de Bébéard. Bébéard dit que quand on reçoit deux CV, l'un qui est au nom de monsieur Marcel Lemercier, 12 rue de la Poupée qui tousse à Soisy-sous-Montmorency, et l'autre qui est de monsieur Abdelhamir Verdenstein, 3 cités des 4000 à je sais pas où, c'est où la cité des 4000, à Sarcelles, à Bobigny, on a plutôt tendance à se porter sur Marcel Lemercier que sur Abdelhamir Verdenstein. Alors il dit donc il faut supprimer les noms. Bon, alors bien sûr, c'est une très très bonne, je suis tout à fait d'accord, mais il faut pas rester là, parce qu'il faut naturellement pas donner les photos. En plus, là, vous avez des gens qui disent, moi j'ai envoyé deux curriculums, il y en a un, deux curriculis. Il y en a un pour le type à 50 ans, l'autre le type à 35 ans. Je vais prendre le type de 35 ans. Donc, vous mettez pas votre âge. Et puis, vous avez aussi l'adresse qui est très, très gênante, parce que si vous habitez la Seine-Saint-Denis et que vous ne mettez pas votre nom, ni votre âge, ni votre photo, et que de l'autre côté, vous habitez la Varenne-Saint-Hilaire, le gars va dire la Seine-Saint-Denis, oh là 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 là, d'ici que ça soit un bon, on va plutôt prendre le gars de la Varenne-Saint-Hilaire. Donc, il faut supprimer l'adresse. Et puis les diplômes. Attendez, il y a les diplômes aussi. Pourquoi on préférait ? Je pense par exemple à un hôpital qui cherche un chef de service pour son service de psychiatrie. Pourquoi il prendrait un type qui a des diplômes ? C'est de la ségrégation. Parce que alors, donc si le gars n'a pas de diplôme, il ne peut pas être patron d'un service de psychiatrie ou d'un service de chirurgie. Mais pourquoi ? Au nom de quoi ? Mais au nom de quoi, je vous le demande ? Alors il faut supprimer les diplômes.
Hein?
Le problème, c'est que quand on va recevoir, quand le patron va recevoir le curriculum où il n'y a pas de nom, pas d'âge, pas de photo, pas de diplôme, rien et pas d'adresse, je me demande comment il va faire savoir au concurrent, au candidat, que la place lui revient. C'est ça qui est compliqué.
Oui, je crois que nos auditeurs ont tout compris maintenant. Ah
non. C'est clair.
Et un autre tient à préciser que, attention, hein, il y a cierges et cierges. Les cierges qu'on trouve dans les églises traditionnalistes sont tout à fait sains.
Ah bah,
ce qui est en cause, ce sont les chandelles avec godets en plastique des églises progressistes.
D'accord, mais pas comme ça.
Et puisque vous aimez les Belges, voilà.
Pour vos prières, une seule chandelle.
La traditionnaliste.
La tradie.
Alors, une devinette belge. Quel est le comble du pléonasme ? C'est un français moyen. J'espère que vous êtes content. Hein. Et puis, par ailleurs, pour vous détendre, ne dit-on pas un homme inverti en vaut deux ?
Oui, ça c'est... Oui, c'est pas enfin, vraiment nouveau, mais enfin, on peut l'accepter.
Un auditeur vous précise, la fête du Miguet, c'est le 1er mai.
Ah ben voilà, c'est pour ça.
Et enfin,
on a anticipé.
Alors là, un auditeur qui, lui, est sérieux, pas comme d'autres. Bon, ma fille qui vient de naître sort de la maternité en parfaite santé. Mais attention, avec une ordonnance d'une dizaine de boîtes de médicaments en tout genre, vitamines, etc. Donc elle n'a pas été...
Foutez tout ça à la poubelle. Pas la fille, hein. Les médicaments, c'est tout. Bon. Alors maintenant, je me tourne vers... je vais me tourner vers Jacques Leminor qui va faire un peu de publicité. Mon cher Jacques, donc vous êtes secrétaire colonel de l'association Renaissance catholique.
Je suis.
Qui organise
sa 13e fête du livre, vente annuelle de livres, donc pour la 13e édition. Ce qui n'a pas changé... Et nous aurons de nouveau, comme les années précédentes, une centaine d'auteurs présents qui dédicaceront à partir de 14h. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des 100 auteurs. Il y en a au moins deux qui seront présents dans ce studio. Dominique Tassot, Serge Debeketch. Il y aura Eugenio Corti qui vient spécialement d'Italie nous présenter son dernier livre qui vient de paraître, Les derniers soldats du roi.
Admirable livre.
Je ne l'ai pas encore lu, mais enfin, connaissant le reste de son œuvre, je pense que c'est à la hauteur. Jean Raspail, prix Daudet 2004, nouveau prix Daudet. Et donc 98 autres, si on compte 100. Il y aura toujours la librairie générale organisée par DPF avec environ 5000 titres de livres neufs, de livres d'occasion, un millier de titres de livres pour la jeunesse. Donc là aussi, beaucoup de livres d'occasion, donc c'est le moment idéal pour trouver des livres quasiment introuvables. Dans l'après-midi, il y aura une conférence de Jean-Pierre Maugendre, puis ensuite deux tables rondes, une première sur les répliques à l'amiral de Gaulle, avec Henri-Christian Giraud, le général Le Groignec et Jean Monneret, puis un peu plus tard dans l'après-midi, une deuxième table ronde sur le problème musulman, le XXIe siècle sera-t-il musulman, donc un peu autour des actes d'une précédente université d'été de Renaissance catholique, avec Philippe Conrad, Laurent Lagartempe et l'abbé Schaeffer. Alors ça rentre dans le cadre habituel des ventes. Mais il y a une petite différence cette année, c'est que la vente n'aura pas lieu au Palais des Congrès de Versailles. Le Palais des Congrès n'a pas désiré nous accueillir cette année. Nous n'avons pas pu trouver une date, alors que nous avions réservé une date auparavant. Ce n'était plus possible. La direction n'a pas voulu nous rencontrer. Donc,
vous connaissez l'histoire de la vérité sur cette affaire. C'est tout à fait extraordinaire. Le secret de ce refus...
Je crois la connaître, mais...
C'est que Le palais des congrès de Versailles recevait depuis 12 ans,
12 ans, 12 universités,
Renaissance catholique. Et puis l'année dernière, on a organisé une réunion des, enfin, de, je sais même plus comment ça s'appelait,
des identitaires, je crois,
quelque chose comme ça, hein. Des identitaires. Qui a été menacé
c'était à peu près 15 jours
par la racaille gauchiste. Et donc, la police prévenue a organisé une petite surveillance des lieux pour empêcher qu'il y ait des affrontements, pour empêcher l'attaque prévenir l'attaque que les gauchistes menaçaient de déclencher contre les lieux. Et étant donné la capacité de boîte crânienne de certains fonctionnaires de la mairie de Versailles, ils ont mélangé les identitaires.
Le palais des congrès ne dépend pas de la mairie.
Enfin, le palais des congrès ne dépend pas de la mairie. Ils ont mélangé les identités. Ils ont confondu les identitaires et les cathos de Renaissance
catholique. Et Renaissance catholique, oui.
Maintenant, ils veulent plus de Renaissance catholique.
Donc, il semble que ça y suffit.
Sous prétexte que les identitaires ont failli être attaqués par les gauchistes. Ça montre très très bien comment fonctionne le système en France.
C'est un amalgame, là. C'est un bel exemple.
C'est non seulement un amalgame, mais c'est vraiment une mentalité de collabo. Parce que, comme on a trop peur des gauchistes, pour leur dire, si vous venez, on va vous détroncher et vous allez comprendre votre douleur. Alors on dit aux gars qui, eux, se réunissent pacifiquement et de façon parfaitement légale, vous n'avez plus le droit de vous réunir parce que si vous réunissez, ça attire la racaille et à ce moment-là, on est embêté. C'est exactement pour les mêmes raisons que la soupe des identitaires, la soupe au cochon, a été interdite à Paris. Parce que le préfet a dit, étant donné que les gauchistes ont dit qu'ils allaient attaquer les distributions de soupe aux cochons, parce que c'est de la soupe aux cochons, et que les musulmans, donc, ne peuvent pas en prendre, on est vraiment dans un monde de fous, je vous le dis.
Enfin, donc,
à cause de ça, la soupe aux cochons est interdite. C'est-à-dire, les SDF ont le droit de crever de faim, parce que les gauchistes ne veulent pas qu'on fasse de la soupe aux cochons et que le préfet de police, qui veut pas qu'il y ait de désordre, donne raison aux gauchistes contre les gens qui agissent légalement. On est exactement dans la même situation. Alors, en tout cas, bon, enfin, donc ça ne se fera pas à Versailles.
Face à ces difficultés, voilà. Ben, nous avons décidé de nous battre, de ne pas baisser les bras. Donc, on espère que notre public habituel se battra également et reviendra. Donc, nous nous sommes reportés, délocalisés à 10 km plus à l'ouest, à Villepreux, à Grand-Maison, dans le superbe cadre de Grand-Maison, que certains de nos auditeurs doivent connaître, entre autres les participants aux différentes universités de Renaissance catholique. Nous avons fait 3 universités dans ces lieux. Donc c'est un lieu superbe, magnifique. Et là, nous avons la chance d'avoir des amis sur place et d'être accueillis avec une immense gentillesse et un savoir-faire. Et je vous dis donc dans un cadre grandiose. Donc, bah, du coup, nous en profitons, puisque nous avons ce lieu. Nous commencerons un peu plus tôt que d'habitude. Nous commencerons par une grand-messe à 11h le matin. Alors qu'habituellement, nous commencions au midi ou 13h. Donc, messe à 11h le matin, messe chantée, qui sera suivie à 12h, ouverture des portes et de la restauration, si j'ose dire, du lieu de restauration. On ne va pas parler de restaurant, ce sera une restauration légère, avec buvette et quelques... Mais enfin, nous sommes en France, donc il y aura de quoi manger, il n'y a pas à s'en faire. Ensuite, donc à 12h, l'ouverture des portes, donc on pourra commencer à acheter les livres, à se promener dans le lieu. Et à 14h commenceront les dédicaces, donc les auteurs sont attendus à partir de 14h. De 14h à 18h, les dédicaces, donc là je vous ai dit une centaine d'auteurs prêts à vous rencontrer, à vous dédicacer leurs ouvrages et à vous accueillir.
Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un service de navette.
Et voilà. Alors évidemment, Villepreux est beaucoup moins facilement atteignable, si j'ose dire, que Versailles. Alors nous avons fait en sorte de contourner les difficultés.
Non, en réalité, en voiture, c'est extrêmement
simple. En voiture, c'est très très simple. Alors
simplement pour les utilisateurs.
Voilà. Alors pour les gens qui n'ont pas qui n'ont pas d'automobile, qui viennent en transport en commun, nous avons mis sur place un service de navette qui sera situé, dont le départ sera situé à une cinquantaine de mètres, 100 mètres de la gare de Versailles rive gauche. Là, il y aura des cars, donc il y aura un service de car. Il y aura un premier car à 10h30, ce qui permet d'être à 11h pour la messe. Ensuite, le service sera suspendu le temps de la messe et il reprendra une heure plus tard à 11h30, pardon, pour être à 12h à l'ouverture des portes. Et ensuite, il y aura une navette, donc à partir de 11h30, toutes les demi-heures, 11h30, 12h, 12h30, etc., etc., toutes les demi-heures. Évidemment, les retours sont assurés. Évidemment, cette navette est gratuite. Donc, vous n'avez aucune raison de ne pas venir. Et alors, vous avez
elle
toutes
va
les
d'où
raisons.
À où, cette navette?
Pardon?
Elle va d'où à où?
Elle va de Versailles-Rive-Gauche, à 50-100 mètres de la gare Versailles-Rive-Gauche. Là, il y aura un panneau Renaissance catholique, il y aura quelqu'un de chez nous pour signaler le départ du car. Et elle arrivera à Villepreux, et donc à l'entrée de Grand Maison. Et elle repartira évidemment sens inverse, même chose, départ de Villepreux à l'entrée de Grand Maison qui viendra à la sortie, et jusqu'à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Donc les gens qui viennent en train, les Versaillais qui ne veulent pas prendre de voiture peuvent prendre ces navettes. Donc il n'y a aucune raison de pas venir, et au contraire, si on veut un peu lutter contre nos ennemis qui veulent interdire cette vente, on a tout lieu au contraire de venir, et nous avons nous tout fait pour que les gens viennent. Il y a également pour les familles, il y aura à partir de 14h une garderie avec des spectacles. Là, je pense que les garderies de Renaissance catholique sont maintenant bien connues à travers les universités et à travers les autres ventes. Donc les enfants sont pris en charge et généralement sortent ravis de ces après-midi.
Et puis on est en famille, on est en famille.
Là on est en famille, oui, comme tout bon Renaissance catholique, c'est la France, c'est la chrétienté, donc nous sommes en famille, c'est un esprit chrétien, c'est un esprit familial, amical, où on rencontre tous ses amis, enfin, je pense que les gens qui sont déjà venus savent tout ça, et nous leur demandons de revenir et de venir avec leurs amis pour faire de cette journée dont certains ont voulu empêcher là.
Même s'ils n'ont pas envie d'acheter de livres.
Ah, ils peuvent venir, oui.
Parce que le lieu est magnifique.
Ne serait-ce que pour visiter le lieu.
On est en famille, on est entre nous, c'est très sympathique. Et puis c'est un acte de...
C'est un acte militant. Le plus justement, c'est qu'il y a toujours du bien dans le mal. Alors, chaque fois qu'on nous tire des flèches, bah, tout est grâce. Il y a toujours du bien qui se présente. Habituellement, il n'y avait pas de buvette, on ne pouvait pas au Palais des Congrès. Là, il y aura une buvette, il y aura des sandwichs, il y aura de la restauration. Donc c'est d'autant plus convivial. Donc tout ça est très bien.
Donc tous à Villepreux le 5 décembre.
Tous à Villepreux, non, le 12 décembre. Oui, on n'a pas donné la date.
Le 12 décembre. Je vous signale que comme c'est mon anniversaire, chaque joueur devra me donner 1000 francs. Bon, dans la règle du Monopoly.
Alors ça, ce n'est peut-être pas obligatoire, c'est la Renaissance catholique d'en décider, mais enfin, on fera notre possible. Et donc on vous attend tous le 12 décembre, donc à partir de 11h messe, à 11h messe, pardon, à partir de 12h début de la vente, à partir de 14h début de la dédicace, jusqu'à 18h, 18h30. Voilà, nous attendons, nous comptons sur vous. Il faut relever les défis, il faut retrousser les manches et se battre, parce que sinon, bah, c'est la mort du livre de notre famille de pensée.
Merci Jacques, on y sera.
Merci à vous.
Bien sûr, on y sera.
Une auditrice demande où on peut se procurer la liste des auteurs présents.
Alors, auprès de Renaissance catholique. Oui, on peut peut-être donner l'adresse et les coordonnées de Renaissance catholique. On va remercier cette auditrice parce que je n'y pensais plus. Renaissance catholique donc est située au 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 ici les Moulineaux, 89 rue Pierre Brossolette, 92 130 ici les Moulineaux. Alors il y a un téléphone qui est le 01 46 62 97 04, 01 46 62 97 04. Télécopie 01 46 62 95 19, télécopie 01 46 62 95 19. Il y a un courriel R catholique en minuscule attaché, la lettre R et à la suite catholique, rcatholique@wanadoo.fr, rcatholique@wanadoo.fr. et il y a également pas mal de renseignements sur notre site. Donc le site, c'est Renaissance catholique, minuscule, tout attaché, renaissancecatholique.org.
Voilà, vous savez tout. Et puis la liste est également dans le livre journal.
La liste paraît dans le livre, je crois, est parue dans le livre journal, ou va paraître dans la dernière livraison du livre journal. Et nous allons aussi, vous allez recevoir, il y aura quelques tractages en région parisienne, et vous allez recevoir, nos fidèles amis de la région parisienne vont recevoir les tracts et toute documentation utile ces jours prochains. Et n'hésitez pas à nous appeler à Renaissance catholique si vous voulez d'autres précisions.
Merci Jacques.
Merci à vous. Merci.
Alors je me tourne maintenant vers Dominique Tassot et Guy Prival, qui n'est pas parrainé exceptionnellement. Alors Dominique Tasso, vous êtes, alors je vous ai reçu plusieurs fois à ce micro, vous êtes le président du CEP, le Centre d'études et de prospectives, c'est ça ?
Sur la science.
Sur la science, qui est une des associations qui contribue à défendre l'idée du caractère authentique, véridique de l'écriture et de la vérification possible de la validité de l'écriture par la science. On peut dire ça comme ça ?
On peut le dire, effectivement.
Alors vous publiez une petite revue, petite par le format, pas petite par l'intérêt, qui est tout à fait excellente, dans laquelle il y a toujours des papiers très très intéressants, très passionnants, qui s'appelle la Revue du Centre d'études et de prospectives sur la science, le CEP, CEP, dont la devise est « Reconsidérer toute chose dans le Christ », et qui pose son regard sur la science, sur l'actualité, sur l'histoire, pose le regard du chrétien, et recherche tous les éléments qui vont dans le sens de la démonstration de l'existence d'une harmonie entre la pensée scientifique et la pensée religieuse. Alors ça paraît aujourd'hui complètement révolutionnaire ou complètement rétrograde, je ne sais pas comment il faut dire, ça revient au même puisqu'on revient toujours à zéro. Mais en tout cas c'est complètement l'inverse du mode de pensée actuel. Et je crois qu'il faudrait, pour les nouveaux auditeurs, ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous ont jamais entendu, que vous présentiez, même rapidement, pour valider votre présence ici.
C'est une question de cohérence. C'est-à-dire que la science est présentée comme un chemin vers la vérité. La vérité scientifique. La foi est également un chemin vers des vérités. Il faut qu'il y ait une harmonie entre ces vérités. Sinon, on est dans un monde absurde. Alors, cette idée d'une cohérence entre les deux ordres de vérité, c'est une vieille idée qu'on trouve bien sûr dans l'Antiquité, qui a été bien mise en valeur à l'époque médiévale. Vous savez, il y a cette idée des deux livres, et le grand livre de la nature et l'Écriture sainte. Et donc le savant de la Renaissance, par exemple, est quelqu'un qui se plonge alternativement dans l'un et dans l'autre, et qui éclaire l'un par la lecture de l'autre. Et donc l'idée qu'on puisse les opposer est tout à fait récente. À l'époque de Galilée, par exemple, Galilée est quelqu'un qui est entièrement convaincu de cette cohérence entre les deux livres. C'est vraiment là une idée liée aux Lumières. La volonté d'opposer. Alors là, c'est devenu plus qu'une idée liée aux Lumières. C'était une tactique, une stratégie, une volonté constante. Alors qui est particulièrement nette chez Voltaire, d'ailleurs. Alors justement, alors un exemple très intéressant que chez Voltaire, c'est sa hargne et tout ce qu'il a mis en place pour essayer de démontrer que le déluge n'avait pas eu lieu.
Ouais.
Vous savez, c'est assez difficile de démontrer que quelque chose n'existe pas, sauf en mathématiques. Mais là, il a payé des gens pour se promener dans le Saint-Gothard pour montrer qu'il n'est pas trouvé de coquillage. Alors c'est assez, enfin évidemment je vous donne tout de suite le résultat, ils n'ont pas trouvé.
Ils n'ont pas trouvé. À partir du moment où ils sont payés, l'idée d'être payé pour ne pas trouver quelque chose, c'est bien ce que j'aurais fait. Je me serais installé dans un hôtel au pied du Saint-Gothard, j'aurais passé 15 jours tranquillement à me goberger, puis après je serais rentré en disant à Voltaire, vous êtes vraiment un génie, on n'a rien trouvé.
Voilà, mes pines.
Les seules coquilles que j'ai trouvées, c'est les coquilles d'huîtres que j'ai bouffées à midi, quoi, c'est tout.
Voilà, mes pines, l'ancien avait trouvé les coquillages, évidemment, dans les Alpes.
N'importe qui
peut en trouver, les ammonites.
Alors votre revue est très intéressante parce qu'elle mélange d'une façon très harmonieuse des papiers qu'on pourrait dire qui tiennent au ventre,
hein, trapus,
oui, et puis de très jolis papiers qui sont à la limite de la poésie, moi que j'aime particulièrement. Par exemple, dans le numéro qui vient de paraître, il y a un article très intéressant sur les libellules, intitulé « Les libellules, merveilleux acrobates aériens », où l'auteur, qui s'appelle M. Guitt, montre en quoi un animal comme la libellule est, par son existence même et par son mode de fonctionnement, la démonstration de l'existence d'une intelligence supérieure, créatrice et bienveillante, et en plus bourrée d'humour.
Voilà, c'est sûr, n'importe quel organe vivant d'ailleurs permet de faire sa démonstration, mais effectivement on a constamment une rubrique regard sur la création, et je dois dire que c'est de loin celle qui intéresse le plus de monde. Alors j'ai quand même beaucoup de lecteurs qui m'écrivent et qui me disent je lis votre revue Ah oui, oui, mais on lit tout, bien sûr. Et les conçus pour pouvoir être lus de façon plus rapide, hein, avec des résumés dans chaque article. Mais la rubrique Regard sur la création, je crois que, à ma connaissance, personne ne fait l'impasse.
Ah. Alors, ce papier particulièrement est amusant parce qu'il est écrit par une libellule. C'est la libellule qui explique ce qu'elle est. Ça commence par « Nous, les libellules, odonates, appartenant aux spécimens les plus surprenants du royaume des insectes. » Et ça se termine par « Nous provenons de l'atelier même du créateur. Ne vous étonnez donc pas de notre beauté, digne nos somptueuses couleurs. » Mais entre-temps, il y a un véritable papier scientifique sur le fonctionnement de la libellule, les choses extraordinaires que fait cet insecte qui arrive à voler en stationnaire, ce qui n'est pas évident, même pour un hélicoptère américain, et qui arrive à voler à reculons, ce qui est assez rare, je crois, dans le réanimal.
Il y a quand même quelques oiseaux qui arrivent à voler à reculons.
Oui, l'oiseau mouche, les choses comme ça, mais c'est pas courant, quoi. Alors, c'est très, très agréable et très satisfaisant pour l'esprit de lire la confirmation de la bienveillance du créateur à travers des articles comme ça. Alors, je lis toujours ça avec un grand bonheur. Et puis, il y a, depuis 4 numéros maintenant, vous publiez un texte que moi j'aurais voulu publier, mais malheureusement il était trop lourd pour être publié dans le Libre Journal, qui est la fameuse confession de Rakowski, qui est un document prodigieux. C'est un entretien d'un médecin qui s'appelle le docteur Rakowski avec avec un chef pas du KGB, parce que c'était pas le KGB, c'était la GPU à l'époque, je crois. Ou le NKVD,
c'était le NKVD.
On a un éclairage, on ne va pas le développer, il faut le lire parce que c'est tellement fin, tellement intelligent, un éclairage sur les méthodes des staliniens, enfin des communistes, et surtout la véritable personnalité des manipulateurs que le personnage appelle « il ». Sans rentrer dans le détail, il faut lire ce document, c'est absolument passionnant. Voilà, la raison pour laquelle j'ai pas publié est double. La première, c'est que c'était vraiment très copieux. Et la deuxième, c'était que je n'arrivais pas à trouver, à avoir des assurances définitives sur son authenticité. Est-ce que vous êtes arrivé vous assurer de l'authenticité?
Moi, j'ai eu en main le livre espagnol, qui était la première édition. Bon, je connais par ailleurs le traducteur anglais, qui a fait une toute petite préface, hein, donc et par les autres ouvrages que ce traducteur a publiés, c'est quelqu'un qui est né en Russie, qui a étudié de façon toute particulière, son père travaillait à la cour du tsar, donc il a fait une étude toute particulière de la révolution communiste, et il a essayé de comprendre comment ce pays, la Russie qu'il connaissait bien, du jour au lendemain, a pu basculer dans l'horreur, et évidemment, le fait que il s'intéresse autant à la confession de Rakowski était un critère important de décision, mais je dirais que, comme pour d'autres documents, la preuve, elle est interne. C'est la qualité des remarques qui sont proposées par Rakowski, c'est-à-dire l'analyse de la géopolitique de l'époque vue par Rakowski, à la limite, quelles que soient les questions. Alors, on peut mettre complètement de côté l'authenticité matérielle du document, qui évidemment a subi une certaine histoire, qui est une copie secrète prise par Landowski, puisque normalement, le document ne devait aller qu'à Staline et à l'interrogateur de Staline, Kouzmine, bon, qui était un Français d'ailleurs. Ce qui est dommage, c'est que l'interrogatoire s'est tenu en français pour que personne ne puisse comprendre, et en particulier celui qui enregistrait. Mais aujourd'hui, évidemment, l'édition française qu'on a réussi à faire, évidemment, elle est traduite.
David Tasso, je vais vous demander l'autorisation de faire ce qu'on appelle en radio, paraît-il, un insert, c'est ça, Franck? Oui. Parce qu'on a retrouvé notre envoyé spécial sur le front de la gastronomie la plus avancée. Et donc, comme il est survivant, je vais d'abord m'en féliciter, puis lui demander de nous raconter, de faire le récit de ses aventures. Allô, Marquis.
Bonsoir, Serge. Comment allez-vous?
Mais ça va. Vous savez qu'on a pensé que vous aviez été foudroyé par une cacahuète vicieuse ou par un bouchon de champagne ajusté.
Pas du tout. Non. Je quittais une réunion de copropriété où je peux vous dire que mes voisins se conduisent pas comme des marquises. Et je me rends au Bristol où il va y avoir le banquet annuel des amis de Kurnonski. Ah. Alors, ça va me changer parce qu'hier, j'étais au gala annuel de... la chambre de commerce franco-israël. Oui. Et je n'en dirai pas un mot à la radio pour éviter les dérapages, mais je réserve aux lecteurs du Livre Journal un compte-rendu soigné de cette soirée qui m'a coûté très cher, bien qu'elle fût cachère.
Ça vous apprendra.
Oui, ça.
Je réserve vos fréquentations.
On vous en prendra.
Alors, donc, ce soir...
Ben voilà, la Légion a sauté sur Colvézi, et là, les hannetons sont en train de sauter sur le Bristol.
Qu'est-ce que c'est que cette réunion annuelle des Amis de Kurnonski?
Alors, il existe une association, qui est l'Association des Amis de Kurnonski, qui est présidée par Michel Sy, qui est un de mes amis. Et une fois par an, il réunit 120 personnes pour fêter Kurnonski.
On est coopté sur le tour de taille ou...
Oh oui, ça compte beaucoup.
Hein. J'ai mes chances.
C'est vous dire si on est aux places d'honneur. Oui. Alors je voulais vous dire que je regrette de ne pas être avec vous. Je salue tous les auditeurs, je salue Victoria, je salue Franck, je salue tout le monde. Et je ne vais pas pouvoir dîner avec vous, bien sûr, même si on finit relativement tôt, je ne pourrai pas vous rejoindre et voir notre cher Daniel. Mais je vais vous donner le menu quand même.
Oui, donnez-nous ça pour voir ce que vous allez faire, vous, pendant que nous, on ira casser la croûte dans notre petit bistrot habituel.
Ben voilà, mais je vais vous regretter quand même. Alors, ça commence par amuse-bouche, parce qu'on est bien élevé chez ces gens-là. Ensuite, soupe de petits marrons à l'écume de lard et brisure de châtaigne.
Pardon ?
Noix de coquille Saint-Jacques poêlée, fine mousseline de cresson de fontaine beurre battu, bar cuit au plat artichaut poivrade au jus de coque et huile d'olive. Puis granité pour le trou normand. Ensuite, poitrine de poule faisane au foie gras, millefeuilles de blettes et caillettes, millefeuilles caramélisées à la vanille et pralinées, croustillant crème glacée au cointreau, friandises de chocolat, café, cointreau caparina. Tout ça arrosé de champagne tsarine tête de cuvée, de Savenière Moulin de Chauvigné et d'un château Chasse-Pline 2002 de Mouly en Médoc.
C'est dur, voilà. Ce métier de grand reporter. Hein.
Ah oui, c'est très très dur.
Il n'y a pas de fromage, hein, j'ai remarqué.
Non, mais ça se fait pas dans les dîners chics.
Bon, ouf, alors là, si le chic se met là-dedans, alors franchement...
Ah non, on pourrait être dans un grand dîner.
Ah non.
On n'est pas de fromage parce que ça pourrait rappeler des légionnaires qu'elles ont follement tué à quelques femmes du monde. Et il faut pas les faire souffrir.
Bon. Alors donc, bah écoutez, je tire mon chapeau devant votre courage de grand reporter.
Oui.
Et bah, on ira ramasser les morceaux après.
Oui, je crois que je vais tirer la langue dans la nuit. Là.
Bon écoutez, on va pas vous retarder parce que
ah ben non,
il faut surtout pas arriver trop tard à table.
Ah non. Le devoir vous appelle.
Bonsoir, chère Victoria.
Bonsoir.
Vous pourriez rappeler à nos auditeurs pourquoi Monsieur Saillant s'est appelé Kurnonski.
Ah oui, ben je crois me souvenir que c'est Kurnonski, ça veut dire tout simplement pourquoi pas ski.
Voilà,
Kurnon en latin, c'est pourquoi voilà. Pas.
Pourquoi pas, parce qu'à l'époque, tout dans la grande l'arrivée des Russes chics, et ben Monsieur Saillant disait pourquoi j'aurais pas mon nom.
Voilà. Alors voilà. Saillantski, c'était pas idéal, donc il avait pris Kurnonski.
Et voilà.
Vous saviez pas ça, Tasso? Ah, enfin j'ai trouvé quelque chose que Tasso ne savait pas.
Ah ben oui, j'ai bien fait d'appeler. Hein.
Merci, cher Marquis.
Je vous souhaite une bonne fin d'émission.
Et ben vous, bonne fin de repas.
Merci beaucoup. Au revoir à tous.
Au revoir. Vous voyez comme c'est dur de ce métier.
Non, le martyr de la table.
Oui, non, effectivement, c'est le martyr.
Comme disait un curé ami de ma mère.
C'est pas le martyr de l'obèse, mais ça ne saurait tarder. Voilà, alors revenons à des considérations plus fantasques, moins sérieuses. Donc il faut lire ce document sur cet entretien qui est riche de révélations et d'éclairages.
Comme preuve d'intérêt et d'authenticité, j'ai un ami italien qui est un ancien dirigeant du Parti communiste, enfin des Jeunesses communistes.
Uh-huh.
Bon, il a après évolué,
après, donc, il s'est
converti,
soigné.
Bon, etc. Mais il est professeur de droit à Rome. Et il m'a, donc c'est un abonné, et il m'a téléphoné deux fois à la suite du numéro, enfin, parce qu'il est passionné.
Ah oui, c'est passionnant, c'est tout à fait passionnant. Alors il y a un autre aspect de cette revue qui est tout à fait passionnant aussi, c'est la recherche sur les origines, qui est présente tout le temps, et dans le dernier numéro, vous avez publié un papier très troublant, qui m'intéresse particulièrement parce que le collaborateur du Libre Journal qui a fait récemment un dossier sur le syncrétisme, sur le New Age et le satanisme infiltré dans l'Église, prépare un dossier sur cette même question. C'est la question des géants. Dans l'Écriture, dans la Bible, dans la Genèse, il est dit que au début des âges, il y eut sur Terre des géants. Qui étaient d'ailleurs, je crois, il est dit que c'était les ancêtres des héros de l'Antiquité. Enfin, c'est
oui, dans c'est ça, voilà. Il y a cette idée, d'ailleurs.
Or, Donc notre collaborateur Blancy est en train de travailler sur ce dossier. Il a trouvé des choses passionnantes sur l'historicité des géants.
Voilà. Mais justement, c'est un point de convergence, si vous voulez, entre la science historique,
et l'écriture.
Parce que et la Bible, parce que les écrivains de l'Antiquité, tels que, enfin, on trouve dans l'Odyssée, donc Homère, on trouve dans Hésiode, on trouve dans les Antiquités judaïques de Joseph, donc du 1er siècle après Jésus-Christ, mention évidemment des géants. Alors il y a les géants et les titans, et un petit peu on trouve les et de la même façon dans la Bible on trouve les géants gigantes et les titans titanes. Donc donc cette idée elle est commune, ce qui montre bien que la il y a un fond commun à ces traditions, qu'elles soient passées par le peuple juif direction la Bible, qu'elles soient passées par les peuples descendants de Japhé et ont donné les mythologies que nous connaissons par ailleurs. Et ce qui est, alors évidemment, il faut distinguer, si on prend la Bible, les géants d'avant le déluge et les géants d'après le déluge qui ont été contemporains des Hébreux, puisque même à l'époque de David, bon, il y a le cas de Goliath qui est quand même très connu, hein. Et Goliath mesurait 6 coudées et une palme, ça fait plus de 3 mètres de haut,
de toute façon.
Alors ceci dit, il existe aujourd'hui les Ibos en Afrique, hein, qui sont très très grands, mais
enfin, ils font pas 3 mètres,
mais ils font facilement 2,70 mètres, 2,80 mètres.
Ah bon?
Ah oui, ils sont vraiment on en trouve facilement de très grands, seulement ils sont très grands mais très
minces.
Très minces. Tandis que ceux qui caractérisent bien sûr les géants tels que Goliath, c'est qu'il était certainement grand, hein, peut-être jusqu'à 3,50 mètres, hein, si on prend la coudée à 50 cm, hein, mais il était également extrêmement fort, puisque on a par l'écriture là des détails très intéressants. Son armure pesait 70 kilos.
Oui.
Alors, elle était évidemment à l'épée, il était impossible de la briser. Il avait une lance aussi grosse qu'un rouleau de tisserand, et le fer de cette lance pesait 8,5 kilos. Alors, ça donne une idée évidemment de la force du personnage, et ça donne une idée évidemment de la frayeur qui s'emparait.
Ce qui est intéressant là, c'est que on peut imaginer les raisons pour lesquelles quelqu'un va inventer un géant. Hein, il a pris une raclée dans une bataille, il revient, on voit ça dans tous les albums d'Astérix, on a été attaqué par une bande de Gaulois féroces, ils étaient deux, ils avaient un chien extrêmement méchant, disent les Romains quand ils se sont pris une raclée, donc on comprend bien pourquoi. Mais là, ce qui est particulier dans l'exemple que vous citez, c'est que la Bible, qui est toujours très très précise, hein, qui donne les dimensions, que ce soit de l'Arche d'Alliance, que ce soit de l'Arche de Noé, on a toutes les dimensions dans la Bible. Chaque fois qu'il est donné des directives aux Hébreux pour la construction d'un lieu de culte, où on leur dit voilà comment ça devra être, quelles devront être les dimensions, en quel bois, avec quel tissu, quelle forme de cuir, quel clou, etc. Bon. Et là, on est toujours dans le même ordre très très précis, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment il était armé, quel était le poids de son arme, quel était... Or, quelqu'un qui inventerait une histoire comme ça n'a pas tendance à aller aussi loin dans le détail, je crois.
Oui, parce qu'il serait facilement mis en défaut, surtout par les contemporains. Et c'est sûr qu'il y a un grand nombre d'indications scientifiques et historiques dans la Bible. C'est une grande différence entre la Bible et le Coran.
Là, c'est alors, dans le dernier numéro, enfin pas le dernier, l'avant-dernier numéro, vous publiez une photo qui est très troublante, parce que c'est une photo d'empreinte.
Voilà, d'empreinte. Alors, c'est un pied fossile de Paluxy River, donc c'est aux États-Unis. Et ce sont des rives d'une rivière avec des strates calcaires. Et en les dégageant, on a trouvé alors un très très grand nombre d'empreintes de pieds humains, mais un beaucoup plus grand nombre d'empreintes de pieds de dinosaures.
Ouais. Alors, qui se chevauchent.
Qui, évidemment, c'est tout à fait au même endroit, les traces s'interpénètrent, et en particulier, alors la photo publiée représente alors une empreinte de pied humain qui est
couverte.
Qui suppose un pied de 38 cm de longueur à peu près.
Voilà.
Alors
c'est pas mal.
C'est pas mal, et ça nous met évidemment sur la piste des géants d'avant le déluge.
Ça. Donc, surtout que à cet endroit, là, aux États-Unis, il y a des empreintes humaines qui sont recouverte par, partiellement par des empreintes de Désor, c'est-à-dire que et réciproquement.
Oui,
c'est exactement contemporain.
Voilà, on a dans la même couche à 50 cm, j'ai donné une photo d'ailleurs, on a à 50 cm de distance, vraiment sur le même site, on a une empreinte humaine, une empreinte de dinosaure. Donc on ne peut pas nier qu'elle soit contemporaine. Et donc on ne peut pas nier que les êtres dont ces empreintes sont la trace fussent contemporains. Alors c'est là évidemment où ça crée une difficulté pour une certaine idée de la préhistoire, puisque théoriquement les dinosaures sont morts il y a 200 millions d'années et l'homme est apparu beaucoup plus tard. Quoi. Donc évidemment pour ceux qui croient à la préhistoire évolutionniste, des faits comme ceux-là n'ont pas le droit de citer. Et alors c'est ce qui est dommageable d'ailleurs dans la science moderne, c'est qu'on a un grand nombre de faits qu'on est obligé d'escamoter parce que c'est pas compatible avec le paradigme.
Ouais. Alors, on va revenir, si vous voulez, vous pouvez rester encore quelques instants, parce que je sais que Daniel Raffard de Brienne, qui est à côté de vous, et qui dit, s'intéresse beaucoup à ces questions-là, je sais qu'il est obligé de nous quitter assez rapidement, donc je vais me permettre de faire un nouvel insert, je vous interromps dans votre développement, mais on y reviendra, pour parler entre autres, du dernier livre de Daniel Raffard de Brienne, qui est, à la surprise générale, consacré au Saint-Suaire, ou au linceul de Turin, et qui est une espèce de, si j'ose dire, de coup de gueule. Hein.
C'est ça.
Hein. C'est la désinformation, ça s'appelle la désinformation autour du linceul de Turin. Et c'est un recensement de tous les travaux de désinformation, de bourrage de crâne et de mensonges qui ont été conduit pour tenter de contrebalancer l'évidence de l'authenticité du linceul de Turin comme suaire qui a enveloppé le corps de notre Seigneur. Et pourquoi avez-vous fait ce bouquin? Parce que c'est votre septième livre, ou sixième ou septième livre sur le Saint-Suaire. À peu près, oui, vous avez fait le Saint-Suaire d'Ivray, le secret du Saint-Suaire, l'enquête sur le Saint-Suaire, le dictionnaire du linceul, et la merveilleuse aventure, qui est un livre pour les enfants. Donc ça enquête fait cinq, Saint-Suaire. C'est le sixième.
Non, l'enquête sur le Saint-Suaire, vous l'avez
dit? Oui, je l'ai dit. Ouais.
C'est plus à la portée de tout le monde.
Et vous avez fait des centaines de conférences dans le monde entier.
Oui,
voilà. 223 conférences sur le Saint-Suaire. Donc, je pense que vous êtes un des connaisseurs les plus ferrés, hein, si j'ose employer ce mot, dans cette radio, sans faire la génuflexion d'usage, parce que, enfin, elle est moralement, elle est faite.
Oui, alors j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais de regrouper tout ça, parce que finalement, quand on voit l'ensemble de ces données, on est un tout petit peu surpris. Moi, ce qui m'étonne le plus, évidemment, il y a plusieurs chapitres, rien que sur le carbone 14, ce qui m'étonne le plus, c'est que quand on triche, on devrait être tout de même un peu plus consciencieux, un peu plus adroit. Là, il y a quelques énormités qui ne peuvent pas passer. Alors, je dirais...
Oui, mais ça c'est dans la logique des choses. C'est-à-dire que le bon Dieu veut bien qu'on trompe tout le monde, mais on peut pas tromper tout le monde sans montrer qu'on le trompe au bout d'un moment. Et forcément, les menteurs se prennent les pieds dans leurs propres mensonges.
Hein, enfin, il n'y a pas que ça, il y a eu bien d'autres histoires. Hein. Je pense au film de Vinci, le linceul de Turin, qui a coûté extrêmement cher au National Geographic et américain, et qui est d'une bêtise mais effrayante.
Oui.
Pour les gens qui ne savent pas. Parce que comme c'est très habilement fait, les gens qui ne savent pas, au contraire, on trouve le moyen d'additionner les contradictions, d'ajouter les impossibilités les unes sur les autres, pour avoir quelque chose d'apparemment cohérent, et qui n'est pas du tout.
Alors, que ça, c'est une preuve de l'importance du.
Mais bien sûr,
qu'il y ait tous ces montages, parce que un film de ce genre coûte quand même énormément d'argent, donc qu'il y ait une propagande. Contre le linceul suffit à démontrer l'importance.
C'est ça, c'est d'ailleurs pourquoi je parle non pas d'erreur, mais de désinformation, ce qui suppose une politique voulue.
Alors, vous apportez, il y a un passage qui est passionnant, je trouve, c'est celui où vous parlez du témoignage de l'abbé Borbouze, qui est un prêtre bruxellois. Voilà, un nouveau témoignage a été apporté, c'est sur le trucage des l'affaire des échantillons. Un nouveau témoignage a été apporté récemment par un prêtre bruxellois, l'abbé Jean-Marie Borbouche, dans une revue historique, qui précise à propos de ce prêtre, par divers recoupements que nous avons effectués, sa sincérité ne fait aucun doute. Voici quelques passages de ce témoignage. Assistant au symposium tenu à Paris en 89, et que nous venons d'évoquer, l'abbé Borbouche se rend à la cafétéria et y voit Ridji et Jacques Evin attablés ensemble. Prêtant l'oreille, j'ai entendu le mot échantillon prononcé par l'un des interlocuteurs. Je me suis rapproché discrètement et je me suis assis derrière une colonne. C'est joli comme idée, ça, je trouve. Le curé espion, il est formidable. J'entends encore les mots prononcés par le professeur Evin s'adressant au professeur Ridji. Vous croyez vraiment, professeur, que personne n'a rien remarqué ni suspecté? Et le professeur Ridji de répondre avec suffisance. Mais non. Moi, professeur, je ne suis pas d'accord avec vous, dit Evin. Il ne faut pas les prendre tous pour des imbéciles. Et je suis de plus en plus certain que chaque mot employé, je ne suis plus certain de chaque mot employé, mais le sens y est, explique l'abbé Borbouze. L'abbé Borbouze sort alors de derrière sa colonne et s'écrie, parce que vous croyez qu'on n'a rien remarqué? Les deux hommes sont frappés de stupeur, sentant que Jacques Evin est l'élément faible. L'abbé s'adresse à lui, vous risquez de sérieux problèmes. Le professeur Evin eut un sursaut de protestation et s'exclama tout en désignant le professeur Ridji du doigt et en s'écartant de lui par un mouvement de rotation sur sa chaise. Non, pas moi, lui, c'est lui qui a des problèmes. C'est formidable.
C'est quand même un témoignage vraiment intéressant. Hein, je regrette qu'on ait pas su ça il y a 10 ans.
C'était publié.
Alors, ça, c'est une des anecdotes de ce livre parlez dans le micro, s'il vous plaît, Daniel, parce qu'on ne vous entend pas.
Juste. Non, l'abbé Borbouche, je l'ai connu. Et Dominique Tassot aussi, certainement, à Rome en 93, c'est quelqu'un de tout à fait sérieux.
Mais ça ne s'invente pas, parce que c'est vécu, ça, c'est évident. Donc, c'est un petit livre, hein, qui est placé sous le patronage obligatoire, puisqu'il s'agit d'un des informations de Vladimir Volkov, qui a défini la désinformation, rappelons-le, comme une manipulation de l'opinion publique à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Alors, je lis un petit livre parce qu'il fait 80 pages à peu près. Mm-hmm. Il est très très joliment réalisé, édité. Ça, c'est le travail des éditions de Paris, de Benoît Manchon, qui fait toujours un travail d'une grande élégance. Et là encore, c'est réussi. Ça tranche beaucoup sur ce qu'on faisait jusqu'à présent. Je devrais pas le dire comme ça parce que ça paraîtra désagréable. Mais c'est vrai que chez nous, dans la famille, on avait tendance à bâcler un peu les travaux d'édition. Et Benoît Mancheron a enfin compris à quel point c'était important qu'un livre soit beau dans son papier, dans son impression, dans le choix du caractère, etc.
Vous avez donné l'exemple dans le Libre Journal.
C'est très gentil, j'espérais que quelqu'un le dirait. Je vous remercie, monsieur Guy Prival, de le dire. Mais c'est vrai, c'était, dès le départ, ça a été mon intention de faire quelque chose qui ne soit pas simplement une espèce de tract un peu chiffonneux. Je comprends que ça soit nécessaire, mais quand on a les moyens, en temps notamment, de faire quelque chose de beau, il ne faut pas s'en priver. Et là, c'est tout à fait réussi dans ce sens-là. Et puis, ça montre bien que, en fait, c'est probablement le livre le plus définitivement convaincant sur l'authenticité du Führer. Parce que,
par contradiction.
C'est-à-dire qu'en montrant les carabistouilles, les calembredaines que les menteurs ont été obligés d'inventer ou de faire ou de fabriquer pour arriver à contrer la vérité du linceul, ben on démontre que, comme vous le disiez, Dominique Tassot, il faut vraiment que ça soit très très important pour qu'on dépense autant d'énergie et qu'on commette autant de conneries, passez-moi l'expression, dans une tentative de sabotage de la vérité.
C'est comme tout qui fraude préhistorique.
Oui, c'est ça, c'est ça. À chaque fois, c'est le fameux homme de Pete Downe, et des choses comme ça. C'est les grands classiques du mensonge scientifique. Et là, je crois que c'est vraiment un bouquin à lire. Vous serez donc à Villeproche, j'imagine.
Je serai.
Vous serez également. Oui. En tant que président de l'Association des écrivains catholiques.
Et je signerai ce livre-là, entre autres, après-demain, vendredi 26 novembre, à la grande vente annuelle, dorénavant annuelle, de l'Association des écrivains catholiques. Une association qui réunit 350 personnes, tous catholiques, bien sûr.
Et même Volkov?
Il n'en est pas.
Il
ne
peut pas.
Alors, pas encore. Oui, il n'y a pas
de. Ça, je suis surpris quand même.
Oui, moi aussi. Et ça a lieu donc vendredi 26 après-demain, de 14 à 19 heures, dans les salons de la mairie du 6e arrondissement, c'est-à-dire juste en face de Saint-Sulpice. Alors tous les gens qui passent dans le coin n'ont qu'à y entrer, d'autant plus que c'est gratuit. L'entrée est gratuite, et la sortie également, je signale. Parce que ça, on ne le précise jamais, mais là...
Pas si on emporte les livres, il y a un moment
où vous payez. Oui, personne n'est obligé d'acheter des livres, seulement ça permettra aux gens et aux auditeurs de Radio Courtoisie de rencontrer des gens qu'ils entendent parfois sur les ondes ou qu'ils lisent parfois, soit dans Présence, soit dans L'Homme Nouveau, soit dans toutes sortes de revues.
Donc, et ça permet d'offrir pour Noël les ouvrages dédicacés, ce qui est quand même toujours...
Voilà, nous arrivons à la fin de cette première partie. Daniel Raffard de Brienne, La désinformation autour du linceul de Turin, paru aux éditions de Paris, ça vaut 10 euros, et ça en vaut vraiment la peine.
Je vous en remercie, et puis alors, n'oubliez pas que tout le monde doit... Il est important qu'il y ait beaucoup de monde vendredi, je vais vous dire pourquoi.
Je vous demande une seconde, on fait la coupure technique parce qu'elle nous est imposée, puis je vous redonne la parole. Daniel, vous étiez en train de nous donner, quand je vous ai interrompu grossièrement, les mais nombreuses raisons... un petit peu quand même. Vous interrompre, c'est toujours grossier. Toutes les bonnes raisons que l'on avait de se rendre à cette signature des écrivains catholiques.
Eh bien, mon ambition, c'est de médiatiser davantage cette association, c'est de lui donner du poids dans l'opinion publique. Vous savez comme moi que l'accès des médias est très difficile... quand on n'est pas tout à fait politiquement correct, et même quand on est simplement catholique maintenant. Et donc j'aimerais que cette association fasse de plus en plus parler d'elle pour pouvoir intervenir dans ce qu'on appelle les débats de société. Quand vous voyez qu'on parle de l'homophobie, de la bécquetsophobie, de la...
J'ai un beau témoignage de bécquetsophobie, je vous lirai ça tout à l'heure.
C'est très rigolo. Etc. Des mariages aux prétendus tels, des joyeux et autres lesbiennes. Eh bien... on voit intervenir la MRAP, on voit intervenir Gay Pride, on voit intervenir des tas de gens. On ne voit jamais intervenir des catholiques. Ou presque jamais. Alors ce que je voudrais, c'est que c'est des associations...
Si ça arrive, vous avez des femmes de curés, ou des curés invertis, oui, ou des... Oui. Donc il y a de temps en temps des catholiques qui ont le droit de prendre la parole.
Les écrivains ont une responsabilité, chacun envers ses lecteurs. Et globalement, ils ont une responsabilité globale envers la société. Donc il est nécessaire qu'ils rappellent les positions catholiques dans tous ces problèmes que l'on discute de manière affolante actuellement. Donc, et pour ça, il faut que beaucoup de gens passent là et ils regarderont. Ils verront, je vous dis, des gens qu'ils ont lus ou qu'ils ont écoutés. Ils pourront parler avec eux. Et ils achèteront des livres s'ils veulent. S'ils ne veulent pas, ils n'achètent pas. C'est leur problème.
Alors, c'est le
vendredi 26 novembre, après-demain, de 14 à 19 heures, à la mairie du 6e, juste en face de Saint-Sulpice. Donc, en faisant les courses, on peut très bien passer là.
Merci, Daniel. Rendez-vous, alors, à cette grande vente. Vous me donnez le papier, s'il vous plaît, Victoria, que je puisse... Non, le petit papier jaune, là. Voilà, ça. Que je puisse rappeler où ça se passe et quand. Donc cette vente a lieu le vendredi 26 novembre, autrement dit, c'est après-demain, de 14 à 19 heures, à la mairie du 6e arrondissement, Paris 6e, métro Saint-Sulpice, autobus 84, 96, 97, 87, 70, 63, 95, c'est une gare routière, parking place Saint-Sulpice en plein dedans. Merci Daniel, à bientôt. Bien, revenons à non pas à nos moutons, mais à nos géants et à nos animaux préhistoriques. Alors, dans le même numéro du CEP, il y a un autre article qui est amusant, c'est un article intitulé « La grotte de Cussac en Dordogne », où on voit comment se prépare une imposture scientifique, en fait.
Oui, hein,
quand on voit bien comment, là, on est en train d'essayer de nous emmener en bateau. Et c'est très, 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 très joliment raconté. On comprend très, très bien les mécanismes d'envoi d'un bouteillon, et puis ensuite, quand la curiosité des gens est excitée, on les empêche d'approfondir le détail de l'affaire ce qui fait flamber les imaginations, ce qui rend possible toutes les inventions. Et en fait, la conclusion qu'on tire de la lecture de cet article, c'est que là, on est en train de nous préparer un site totalement bidon. Un site préhistorique faux, fabriqué à la main.
Un piledown.
Un piledown à l'échelle de...
En tout cas, c'est un essai, oui.
Comment ?
En tout cas, c'est un essai.
Oui, en tout cas, on est en train d'essayer de faire ça.
On va attendre un peu pour que les vrais scientifiques puissent pas trop vérifier les pièces.
C'est ça. Et on retombe toujours sur la même sottise extraordinaire de des truqueurs. C'est-à-dire que c'est fait avec maladresse. Là, en l'occurrence, il semblerait que des gravures soient d'une fraîcheur qui rend absolument impossible leur datation, une datation préhistorique, une origine préhistorique.
Donc on va pas les faire visitables, on va les rendre visitables dans 10 ans.
Dans 10 ans.
Comme ça, il y aura un peu de patine, et à ce moment-là, ça passera.
Alors ça, c'est les dessous de la préhistoire, la grotte de Cussac en Dordogne, à mon avis, c'est un papier de Pierre-Florent Auvillier qu'il faut lire, parce que on voit bien comment fonctionne le système. Et puis, autre papier passionnant, Athéna et Éden, sur le message caché de la face est du Parthénon. Alors je pensais pas qu'on pouvait découvrir encore des choses sur le Parthénon, parce que c'est probablement un des monuments au monde qui a été le plus examiné sous toutes les façades et toutes les coutures, si j'ose dire. Mais... si, on peut encore découvrir des choses.
Quand on a une piste d'analyse, quand on a une grille de lecture nouvelle, même sur les sujets les plus habituels, on peut trouver des choses nouvelles, et c'est ce que, évidemment, c'est ce qu'a fait l'auteur américain dont on rencontre des travaux, et qui nous ramène un petit peu à la problématique des géants, parce que on retrouve là une cohérence entre les informations qu'on a dans la Bible sur les premiers temps de l'humanité, et les informations qu'on peut décrypter de cette façade du Parthénon à travers la mythologie grecque. Et on se rend compte que les mêmes personnages, mais sous des noms différents, se retrouvent de l'un et l'autre côté.
Alors, il y a un petit résumé qui est la présentation de l'article. Les dieux de la mythologie grecque partagent bien des traits avec l'humanité pécheresse, de là l'idée que ces fables habilement inventées, qui est un extrait de la lettre de Pierre, transcrivent d'une manière imagée des événements historiques survenus dans les débuts de l'humanité. Cette thèse fut celle du philosophe grec Évémère au IIIe siècle avant notre ère. Elle vient de trouver une nouvelle illustration avec l'œuvre de Robert Bowie Johnson. Cet officier américain a établi une étroite correspondance entre les personnages mythologiques sculptés sur la façade du Parthénon, le temple de la déesse Athéna qui domine Athènes, et les grandes figures de l'humanité pré- et post-diluvienne, Adam qui serait Zeus, Héra qui serait représenté par Ève avant la chute, enfin qui représenterait Ève avant la chute, Athéna, Ève éclairée par la sagesse du serpent, Caïn qui serait incarné, représenté par Héphaïstos. Il y a dans ce parallélisme un argument puissant en faveur de l'universalité et donc de l'historicité du récit de la Genèse. Et ça, c'est une constante. Hein, dans la mythologie, quand on lit la mythologie, on voit que sans arrêt affleure l'histoire de la Genèse, mais on a l'impression que c'est répété par des gens qui n'ont pas compris.
Voilà, c'est toujours, hein, c'est toujours soit incomplet, soit déformé. Oui. Alors que d'une certaine façon, les Hébreux ont eu le privilège de transmettre une tradition authentique. Mmh. Mais c'est le même récit.
Moïse ayant été l'auteur de la première interview de l'histoire, quand même.
D'où la notion, ce qu'on appelait la révélation primitive, qui a eu des développements très importants au XIXe siècle, au moment où un petit peu de tous les recoins du globe sont arrivés des récits de missionnaires qui de première main exposaient quelles étaient les mythologies ou les croyances de peuples dispersés un peu partout.
Et à chaque fois, on retrouvait l'universalité du déluge.
Les grandes constantes.
Voilà, donc cette revue s'appelle, je le répète, le CEP. On peut se la procurer. Et elle est vraiment passionnante. Hein. Elle est belle en plus, aussi. Elle est joliment faite. Le format en est agréable. Elle a un dos carré, ce qui est toujours plaisant pour une revue. Et on peut la trouver 4 rue de Beauvais, à Saint-Cyr sous Dourdan.
Ça, c'est pour l'avoir par correspondance. Voilà. On peut, en donnant son adresse et en écrivant 4 rue de Beauvais, 91 410 à Saint-Cyr sous Dourdan, en obtenir la livraison de 2 spécimens successifs, apparaître. Donc le prochain sera le numéro 31, apparaître en janvier, et le 32 en mars ou avril. Les gens qui veulent découvrir cette revue peuvent donc le faire en écrivant. Le téléphone, oui, c'est 01 60 81 27 24. C'est le même numéro pour un fax. Ou, si vous avez Internet, S comme secrétariat, point CEP, C-E-P, S.CEP, at wanadoo.fr. Les habitants de l'Île-de-France peuvent la trouver, comme d'habitude, dans quatre librairies qui sont très souvent citées ici. Nous avons Notre-Dame d'Auteuil en face, la librairie Gaîtier, donc, en face de Notre-Dame d'Auteuil. Les librairies de France Livre, rue du Petit Pont, et de Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, ainsi que la Licorne Bleue.
Vous organisez également des colloques.
Oui.
Je signale qu'on peut trouver dès maintenant les enregistrements du dernier colloque qui a eu lieu à Chevilly-Larue en septembre 2004.
Il faut également demander par courrier ou par fax ou par courriel la liste, le prix de ces enregistrements qui sont disponibles sous forme de cassette ou de CD. Au prix, généralement, de 6 ou 7,5, suivant la longueur, 6 euros ou 7,50 euros. D'ailleurs, nous avons de disponibles tous les enregistrements des colloques précédents pendant les 7 années qui sont écoulées maintenant depuis la fondation du CEP par Dominique Tassot. Et ce qui constitue une collection assez impressionnante.
Le prochain colloque aura lieu quand, vous le savez?
Le prochain est parisien, il a lieu le 19 février, à Paris, rue de Sèvres, comme d'habitude. Le prochain numéro du CEP, d'ailleurs, publiera le programme détaillé avec le nom des intervenants, ainsi que il contiendra également le matériel pour s'inscrire. Ça se passe un samedi, le deuxième samedi de carême, et il y a quatre conférences dans la journée. On peut prendre son repas. L'autre colloque sera un colloque national de deux jours, samedi et dimanche. Il aura lieu à Angers les 15 et 16 octobre prochains, en 2005.
On aura le temps d'en parler de ça.
On en reparlera certainement.
Merci beaucoup, Monsieur Prisval. Je crois qu'on a tout dit.
Je voudrais juste ajouter un point. Qui est un point de convergence justement entre ce que l'on sait par le livre du juste, qui est un livre très ancien d'Israël, et également par Joseph, l'Antiquité judaïque, à propos des raisons du déluge. Parce que ces géants d'avant le déluge, on les présente comme les titans, les géants, enfin donc des personnages belliqueux, considérables, etc. Et également rebellés contre Dieu, et en particulier comme ayant pratiqué l'homosexualité dont nous parlait tout à l'heure. Et alors donc ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la tradition aussi bien biblique que profane de l'Antiquité nous dit que ces hommes rebelles l'étaient en particulier par le fait qu'ils avaient s'étaient rentrés dans ces mœurs et que ça a été la cause du déluge. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il est bon d'avoir. Enfin, alors c'est repris indirectement par certains textes de Saint Pierre ou de Saint Paul, hein, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des points au fond tellement importants dans la nature humaine qu'à un moment donné, évidemment, l'homme a sa liberté, il peut tout faire, mais il y a quand même des limites.
C'est le système entier qui se dérègle.
Voilà, il y a un moment à ce moment-là, le grand maître arrête la séance. Ouais.
Merci beaucoup, Dominique Tassot. Merci, Guy Prisval. Et puis, vous reviendrez nous voir avant le prochain colloque de février pour nous en parler, pour nous rappeler où il se déroule et quelle sera sa ligne.
Avec plaisir. Qui portera sur l'enseignement.
Merci. Un auditeur nous signale que Alexandre Vialat a déjà tout dit sur les origines du monde. Voici sa conclusion. L'humanité remonte à la plus haute antiquité.
L'homme, oui. Merci à Vialat, dont on ne parle pas assez. Monsieur Goffman, êtes-vous avec nous, comme disait Mira Miroskar ?
Présent.
Je me félicite de votre présence. Comment allez-vous, mon cher Patrick ?
Je Je vais très bien, mieux encore qu'hier et bien moins que demain, mon cher Serge de Becquet. Je vous salue, ainsi que, bien sûr, vos auditeurs et vos auditrices dans le monde entier et au-delà.
Vous n'êtes pas, vous, parachuté sur un site dangereux comme le Marquis ?
Non, je n'ai pas son héroïsme, ni son tour de taille d'ailleurs, et donc... Je vous parle en direct du boulevard de Port-Royal.
C'est une bonne adresse aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Je suis sûr que vous allez nous parler du Libre Journal.
Vous avez deviné, mon cher Serge, parce que nous avons, comme on dit, bouclé le numéro 336 pas plus tard qu'hier. Et ma foi, j'en suis assez fier. Mercredi dernier, certains auditeurs s'en souviennent peut-être, c'est vous qui avez fait l'article pour le Libre Journal par téléphone, ce qui était quand même amusant dans notre propre émission. Et j'ai été très frappé en vous écoutant de ce que vous ayez la délicatesse qui s'est avérée finalement de l'intelligence vu les retours, de citer des rubriques qui peuvent paraître secondaires et que moi je ne citais jamais. Et il y en a une seule que vous avez oubliée, que j'ai sous les yeux, ce sont les lettres de nos lecteurs. Sur une seule page, là, dans le numéro 337 là, qui va paraître ces jours-ci, nous avons un reportage délicieux sur Halloween en Californie. Nous avons pas mal d'abonnés, de lecteurs aux États-Unis. Un autre sur le parti des fusilleurs, nommément Monsieur Guesso qui se tire dans le pied en Isère. Un autre petit reportage en quelques lignes à Levallois-Perret. Et il en a comme ça 5 ou 6.
Oui, ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est vrai, c'est que les lettres de lecteurs deviennent de plus en plus des contributions. Donc, en général, les lettres de lecteurs, c'est pour dire « j'ai pas aimé cet article » ou « j'ai bien aimé cet article ». Et nous, on arrive à avoir de plus en plus de lettres de lecteurs qui disent « tiens, je vous apporte une petite information ou un point de vue ou un regard sur l'actualité ». Et c'est ce qui est le cas, par exemple, du petit récit sur Halloween qu'on a, qui est effectivement Halloween vu des États-Unis par des Français qui s'installent aux États-Unis et qui nous montre un aspect de la vie quotidienne l'Amérique profonde qui est assez étonnant.
Alors, si on est fier de notre journal, on peut être fier de nos lecteurs aussi, parce que ils ont tous un petit brin de plume et ils ont tous l'idée de nous raconter des choses qui viennent compléter quoi le journal, des informations qu'on n'a pas eues. C'est vraiment très agréable. Alors, en dehors de ça, donc je signale rapidement l'essentiel du sommaire. D'abord, bien entendu, puisque vous parliez du Marquis, il nous donne un reportage sur le mariage du prince Louis de Bourbon, d'Espagne, je crois, qui est toujours très caustique et très informé en même temps, comme d'habitude. Nous avons une double page sur un scandale sans précédent, qui est la propagande homophile, mais vous avez expliqué tout à l'heure que ça n'avait pas de sens, homophobe, homophile, ça n'en a pas non plus. Enfin bref, la propagande homosexuelle à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, des élèves de 3e doivent apprendre par cœur la louange des amours saphiques.
Non, pas saphiques, il s'agit d'un monsieur. Il s'agit de messieurs.
Ah oui, en effet, oui.
Oui, c'est Monsieur Elton John et son jeune camarade.
Voilà, alors ça nous paraît quand même un peu extraordinaire, et donc on en rend compte en 2 pages.
Il faut dire, il faut rendre cette justice à la maison de l'éducation de la Légion d'honneur et à ses dirigeants, que quand j'ai téléphoné pour vérifier l'information, j'ai eu l'impression que la foudre s'abattait sur cette maison, parce que visiblement personne n'était au courant de ce qui se passait dans cette classe de musique, et la directrice de la musique était épouvantée littéralement.
Bon, ben,
donc la maison en soi n'est pas en cause. La maison, elle est parfaitement aussi respectable qu'elle a toujours été, mais il y a certaines habitudes qui semblent tenter de s'installer et auxquelles, à mon avis, il serait souhaitable de donner un peu plus de mesure, puisqu'on parle de musique.
Alors je citerai également une autre double page assez remarquable de notre ami manifestier universitaire distingué à Montpellier, qui nous prédit, c'est le titre de son article un peu sensationnel, que la prochaine cible des États-Unis, ce sera l'Iran, qui serait bientôt bombardé. Et il faut dire que ce ne sont pas des, c'est pas du jus de crâne, c'est-à-dire qu'il procède à une revue de la presse américaine, plusieurs dizaines de citations, qui rappellent étrangement les propos de la presse américaine au sujet de l'Irak dans les mois qui ont précédé l'agression. C'est vraiment un article très très sérieux, très très documenté. Vous parliez tout à l'heure de Genio Corti. Eh bien, et de sa présence le 12 décembre à Versailles avec Renaissance Catholique. Il vient spécialement d'Italie. Il est souvent considéré comme le romancier catholique vivant. Eh bien, dans notre page livre, nous citons ses deux derniers livres, La plupart ne reviendront pas, et Les derniers soldats du roi, où il raconte sa retraite de Russie avec le corps expéditionnaire italien en 42. Sur le front de l'Est, et ensuite la fin de la guerre en Italie, à laquelle il a pris part avec un corps régulier de soldats italiens dont on parle très peu souvent. Voilà, je ne peux pas citer les 26 pages, les 24 pages, pardon, de ce libre journal. Je peux seulement donc rappeler que les curieux économes peuvent faire sa connaissance gratuitement sur un site internet qui est francecourtoise en un seul mot, .info, que ceux qui sont intéressés donc par un spécimen, par ce numéro 336 par exemple, envoient un carnet de timbre, et que ceux qui ont compris qu'il vaut la peine de s'abonner pour un an au prix dérisoire de 110 euros à ce journal qui paraît trois fois par mois, donc écrivent à SDB, les chèques sont à l'ordre de SDB, Serge de Beketch, ça va directement sur votre compte personnel.
Je l'ai déjà faite, celle-là.
Et on revoit, oui, c'est pour ça que je répète, parce que j'ai trouvé ça drôle et informatif à la fois. Donc, si vous faites le chèque à l'ordre de Serge de Beketch, ça s'évapore sur son compte personnel pour le pire usage.
Si seulement ça pouvait être vrai.
C'est SDB, la société, l'adresse, c'est, devinez, 4 places, France Liste, 75 010 Paris.
Merci mon cher Patrick, je vais m'abonner. Vous m'avez convaincu, je crois que c'est un bon journal. À bientôt.
Merci, bonne soirée.
Merci encore. Au revoir. Voilà. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais un exemple de Beketchophobie, mais il faut que je lise un texte que j'ai reçu par télécopie. Je n'ai pas l'habitude de lire les textes anonymes, mais celui-là est tellement beau. Et c'est tellement... Tiens, quand j'ai un médecin en face de moi, bien qu'il soit pas psychiatre, parce que le docteur Plantet n'a pas pu venir, mais vous allez voir quand même un témoignage assez intéressant de déstructuration intellectuelle et mentale. Pas mal le couplet communiste sur l'Ukraine. Le bougnoul moscovite, c'est moi le bougnoul moscovite, soutient évidemment son employeur, le camarade Poutine, et ses tentatives de reconstitution de l'URSS. Il ne lui reste plus qu'à s'engager au KGB, FSB. Il est vrai que c'est une vieille tradition. Le grand-père servait de mercenaire au Felouz de Belgrade. Alors, le Felouz de Belgrade, je sais pas qui c'est. Mon grand-père, il était l'aide de camp du général Denikin, chef des armées blanches. Alors, je sais pas si c'est lui, je crois, le Felouz de Belgrade. Le père arborait le drapeau rouge à Dien Bien Phu. Oui, mon père est mort dans les rangs de la Légion à Dien Bien Phu. Le fils travaille pour les soviets, bien sûr, ils seront contents de l'apprendre, tout en essayant de se faire passer pour un anticommuniste. Il est vrai que quand on a de grands besoins, combien il lui fallait à minute tous les mois, il a coulé le journal quand son copain a cessé de payer. Alors, on est prêt à travailler pour la fausse droite en déféquant dans les cerveaux de la droite nationale. À propos, pourquoi le journaliste indépendant n'invite-t-il plus son copain Dreyfus Bunel pour raconter les élucubrations aéronautiques du camarade? Parce que son patron ferré le lui a interdit. Il faudra bien que les vrais résistants fassent un jour un petit nettoyage ethnique et renvoient le métèque soviétique, sa petite femme et sa progéniture dans leur goulag natal. La France aux Français, Sergueï, tu connais? Alors, je peux pas croire qu'un homme de droite soit à la fois fou et comment dire, c'est même pas médiocre, c'est minable à ce point-là. Je pense que c'est une provocation d'un trotskiste ou d'un voyou de ce genre, mais c'est quand même très intéressant de voir à quel point c'est intéressant sur le plan clinique, je dirais, hein,
surtout que ça se répète.
D'abord, c'est un peu répétitif, oui, mais bon, quand il y a un tout petit cerveau, c'est toujours les mêmes idées qui reviennent, c'est évident. Mais là, c'est quand même, c'est vraiment un cas clinique. Je pense qu'avec ça, je regrette que François Plantet soit pas là, parce qu'il aurait probablement pu avancer les prémices d'un diagnostic. Et si on arrivait à identifier la source, mais naturellement, ce héros de la résistance, puisqu'il est vrai résistant, ne signe pas ses lettres, ce qui est quand même beaucoup plus prudent, on aurait pu lui faire une conduite jusqu'à l'établissement psychiatrique le plus proche. Mais vraiment, c'est intéressant. Voilà, je voulais vous donner, parce qu'il n'y a pas de raison que je garde ce genre de document pour moi, ça fait partie des petits plaisirs de l'existence. Et, hein, non, vous ne trouvez pas
bon.
C'est charmant, je trouve, c'est drôle comme tout. Il y a aussi l'habituel Toquet qui accuse Manche. Alors ça, c'est les gens qui ont trop lu Couvert et Plomplon.
Ah ben oui.
Il accuse Mancheron d'être gnostique. Vous savez ce que c'est un gnostique, docteur ?
Un qui ne croit pas.
Ah ben, un agnostique.
Qu'est-ce que j'ai pas entendu ?
Un gnostique.
Ah, mais un qui connaît.
Eh ben voilà. Alors il reproche Mancheron de connaître.
Qui la connaît dans les coins.
Voilà, tout ça pour vous dire qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde.
Un autre, peut-être le même, cette pollution de la religion catholique par la mythologie grecque n'est-elle pas une sorte de gnose ?
Ben bien sûr, gnose toujours, etc.
J'ai aussi un anti-Beckett là.
Ah oui, allez-y, puisqu'on y est.
Il soupire, celui-là. C'est vraiment décevant que dans certaines émissions, depuis 3 ans, il n'y ait plus d'expression politique. Mais où est le Front National ? Cotiser pour des émissions de ce genre en une période aussi grave ne m'engage pas à recotiser.
Alors, la question que vous posez, cher auditeur, c'est où est le Front National ? Mais moi, je me pose la même question, c'est ça le problème. Et comme j'ai pas de réponse, vous pensez bien que je vais pas inviter les représentants du Front National pour nous expliquer ce qui se passe entre Marine, Bruno Gollnisch, Bompard, pourquoi on a viré Bompard, parce que tout ça, pour ne rien vous cacher, je m'en fous, mais alors vraiment d'une façon absolument militante. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est que le Front National refasse ce qu'il faisait il y a quelques années, c'est-à-dire de l'action politique intelligente et utile. On n'est pas dans les purs, là. On n'est pas dans le système. C'est pas ce qui se passe. Il ne se passe rien au Front National. Le Front National ne fait strictement rien d'intéressant en ce moment, sinon se bouffer la gueule pour un résultat nul. Alors je n'en parle pas, puisque vous m'invitez à en parler, je le fais là exceptionnellement, mais quand ils font des choses intéressantes, je ne dis pas que je les inviterai pas de nouveau. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je veux bien inviter Bompard qui fait des choses intéressantes, je veux bien inviter Gollnisch qui est un personnage intéressant, qui a des choses intéressantes à dire, je veux bien inviter Marine qui a certainement des choses intéressantes à dire, si c'est pour, et Jean-Marie Le Pen bien entendu, si c'est pour parler de la situation politique du pays. Si c'est pour qu'on me raconte que Bompard est un salaud, que Gollnisch est un traître, tout ça je m'en fous absolument, parce que ça n'a aucun intérêt, c'est ridicule, c'est scandaleux, c'est grossier, c'est salissant pour l'esprit, et donc je n'en parlerai pas. Voilà, je pense que j'ai été assez clair.
Et un auditeur vous signale justement que, d'après Le Pen, cité sur Europe 1 cet après-midi, les socialistes feraient peut-être appel à Ségolène Royal pour la présidentielle de 2007. Qu'en pensez-vous ? Ben justement.
Vous savez, alors je vais vous dire ce que j'en pense. Je m'en fous radicalement parce que je ne voterai jamais pour un socialiste. Alors que ce soit Ségolène, Hollande, Strauss-Kahn, Lang, qui manque encore dans la bande, là, j'ai oublié, Fabius, ou n'importe quel abruti de chien coiffé socialiste, je m'en fous absolument. Ils peuvent présenter qui ils veulent, ils n'auront évidemment jamais ma voix.
Abruti, redites-le moi, j'adore quand vous dites ça. Alors, un auditeur à propos de les élèves de la Légion d'honneur. Oh, Fidi, tout de même, il faut dire que les adolescents de cet âge apprécient cette chanson pour la beauté de la mélodie, pas pour le texte que beaucoup ne connaissent même pas. Et cette chanson est extraite d'une bande originale de film dans lequel cette chanson est chantée par un homme à une femme.
Oui, simplement dans la chanson, il y a Boy. Alors, s'il dit Boy à sa femme, ça va surprendre. Mais c'est pas le problème. C'est un peu ce que m'a dit le professeur de musique que j'ai eu. Seulement, ça n'est pas la musique qui est étudiée en musique, curieusement, c'est le texte qui a été soumis à l'étude. Et je dirais c'est vrai. L'argument, c'est... Mais est-ce que vous croyez que des jeunes filles de 15 ou 16 ans, en troisième, ne savent pas que l'inversion existe ? Si, bien sûr, mais est-ce que c'est pour cette raison-là qu'il faut la banaliser, la normaliser en faisant un sujet d'étude dans une classe de jeunes filles? Parce qu'à ce moment-là, il faut faire aussi des cours d'avortement. Pourquoi pas? Elles savent bien que l'avortement existe, donc il faut leur enseigner l'avortement. Je vois pas pourquoi on s'arrête en si bon chemin. Ce qui est terrible, justement, c'est ça. C'est que les esprits sont devenus tellement tourneboulés qu'il paraît tout à fait naturel aujourd'hui de parler à des enfants, à des jeunes filles de 15 et 16 ans, de choses dont les adultes, il y a 10 ans, n'osaient même pas parler entre eux. Oui. Voilà, c'est ça le problème.
Alors un auditeur confirme pour autre sujet, à 16h38 cet après-midi, adoption par la commission des affaires sociales de l'Assemblée d'un amendement imposant des curriculum vitae ne comportant ni le nom, ni le sexe, ni l'âge, ni la nationalité.
C'est fabuleux.
Fabuleux.
C'est vraiment, ils sont devenus fous tous ces gens-là.
Un auditeur s'informe, conseilleriez-vous d'acheter le nouveau pilote qu'on trouve en kiosque actuellement? L'avez-vous lu?
Non.
Un auditeur qui souhaiterait...
Mais d'après ce que disait Molly Terny il y a 15 jours, qui était à ce micro, on peut peut-être le feuilleter avant de l'acheter. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Et un auditeur qui souhaite vous envoyer un message vous demande de lui communiquer votre courriel.
Mon courriel, c'est extrêmement simple, c'est librejournal en un seul mot, en minuscule, @noos.fr. Nos, parce que l'on dit nous, mais c'est nos en fait, puisque c'est la nosphère. Donc librejournal@nos.fr.
Et il y avait une question pour Monsieur Raffard de Brienne, mais vous pouvez sûrement répondre. Est-ce vrai, comme Alain Lecour le prétend, que les taches de sang après plusieurs siècles deviennent verdâtres?
Pas sur le linceul, en tout cas. Je vois pas pourquoi. Possible, oui. Est-ce que le sang contient du fer, il ne contient pas de cuivre?
Non, il ne contient pas de cuivre, sauf s'il est intoxiqué au cuivre.
Oui, intoxiqué au cuivre. Donc, je n'ai pas de lumière là-dessus particulière. En tout cas, pour le sang-sueur, il n'y a pas de trace verdâtre. Il s'agit bien de sang.
Oui. Et enfin, un auditeur vous salue, un auditeur de Bretagne vous salue avec plaisir et il est très content de vous entendre à nouveau depuis son départ de la région parisienne il y a 3 ans parce que ça le rajeunit.
Ça me fait bien plaisir.
Et puis, une proposition honnête, là, souhaitez-vous que cet auditeur qui vous donne son numéro de téléphone vous donne tous ces Elton Johns dont il souhaite se séparer?
Oh, moi, j'en ferai un auto-da-fé dans mon jardin. Est-ce que ça brûle bien les disques? Je ne sais pas. Et il faut vraiment, enfin, j'ai noté le numéro de téléphone, voilà. Docteur Willem, bonsoir.
Bonsoir,
Serge. Je suis content de vous recevoir une fois de plus parce que vous êtes un homme de conviction qui publie des choses intéressantes. Vous êtes un médecin de combat. Vous êtes, donc médecin, je l'ai dit, vous êtes le fondateur d'une très belle association, une très belle organisation qui s'appelle la Médecins aux pieds nus. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est, je crois, réédité, là, qui a eu un succès énorme il y a quelques années. Qui
ben oui, j'ai fait
les
trois
peuples sans cancer.
Oui, mais j'ai fait 3 best-sellers. Il y a eu Les huiles essentielles. Oui. Il y a eu Au diable la vieillesse. Voilà. Et puis celui-là qui prend une bonne tournure.
Et alors maintenant,
bonne tournure.
Donc celui qui vient de paraître chez Guy Prédaniel, qui s'appelle Prévenir et vaincre le cancer. Alors encore une fois, comme toujours avec vous, c'est pas une glose sur le cancer. C'est quelque chose de très précis, très utile, très utilisable. Ce sont des conseils de prévention et de traitement du cancer. Et c'est une espèce de dossier complet sur le sujet que, je pense, tous les gens qui veulent éviter cette maladie, prévenir cette maladie, ou qui veulent la soigner s'ils en sont affectés ou si certains de leurs proches en sont affectés, devraient avoir dans leur bibliothèque, parce que c'est un livre extrêmement complet, c'est une espèce de vade-mecum auquel on peut se référer à chaque instant, puisque la genèse du cancer est expliquée, la nature des différents cancers, les différents traitements, d'abord les différents modes de prévention alimentaire, suppléments alimentaires, compléments alimentaires, etc., etc., hygiène de vie, et puis ensuite les remèdes, les traitements, les divers traitements, Donc c'est vraiment un document extrêmement intéressant et utile. Vous avez mis combien, vous allez me dire que vous avez mis 40 ans à le faire, puisque c'est le fruit de 40 ans d'expérience, j'imagine, voire
plus. Eh bien, quand je me suis engagé à la guerre d'Algérie, je me suis retrouvé interne au centre Pierre et Marie Curie à Alger. Donc c'est là que j'ai pris conscience des cancers des enfants. Et c'est quelque chose d'épouvantable et ça m'a toujours mis sur une certaine voie. Puis dans chacune de nos familles, on a eu des morts ou par infarctus ou par cancer. Hein.
Alors, quel est l'objectif pour vous quand vous publiez un livre comme ça? Parce que je l'ai dit, c'est pas une glose, c'est pas un travail de réflexion détaché du concret, c'est au contraire quelque chose de très 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 concret. Est-ce que vous pensez vraiment que on peut prévenir le cancer si on arrive à comprendre la genèse de cette maladie, les modes d'apparition ou les modes d'acquisition, si j'ose dire, de cette maladie?
Mais la prévention, elle est simple. Hein. D'abord, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Gernès, dont j'ai beaucoup parlé,
bien
et qui, lui, depuis l'âge de 21 ans, c'est-à-dire l'âge où il a terminé sa médecine, il a fait 4 grands centres anticancéreux, il a même jugulé certains cancers, il a 83 ans, et il est sous le boisseau encore maintenant.
Ben, c'est un très très grand bonhomme, Gernès.
Oui.
C'est lui, il avait sorti... Il a été victime, alors lui, d'une omerta absolument incroyable. Il avait remis un rapport, j'ai fait un papier dans le Libre Journal il y a quelques mois là-dessus, il avait remis un rapport aux autorités politiques en disant qu'il y a un moyen simple d'éviter au moins 50% des cancers.
Ah ben, en prévention, mais c'est plus que ça.
Et c'était un moyen très simple, c'était une prévention par l'alimentation et par l'hygiène de vie uniquement.
La
prise de...
C'est la mise en acidose du...
Voilà, la mise en acidose.
C'est-à-dire, et qui correspond, comme quoi moi j'étudie, vous savez, je suis anthropologue et j'étudie les religions. Et pourquoi les trois religions monothéistes et d'autres religions satellitaires préconisent un jeûne, une restriction alimentaire? C'est pas forcément, si Dieu existe, et je pense qu'il existe, il n'aime pas le fait de s'abstenir de manger, c'est pas s'abstenir, de se réduire la nourriture, c'est quelque chose d'un peu désagréable. Si vous avez des clins d'œil comme ça dans les saintes écritures, c'est que ça vous indique que vous êtes en bonne santé. Dieu préfère qu'on l'honore en bonne santé que malade, ça c'est évident. Et c'est comme ça que j'explique, hein, je ne suis pas dans une secte, hein, comme vous pouvez le penser. Alors le fait, donc, ces trois religions monothéistes préconisent le ramadan, le carême et l'Yom Kippour, qui lui était raccourci. Et pourquoi? Tout simplement par une réduction alimentaire, vous mettez votre biotope, c'est-à-dire votre organisme, en acidose. Et il ne peut pas y avoir de cancer. Il y a eu un prix Nobel qui l'a dit en 23, mais on a planqué cette découverte, Otto Warburg, qui disait que c'est impossible qu'un cancer se développe sur un terrain acide. Et je vous donne un exemple, il n'y a pas de cancer du muscle. Pourquoi il n'y a pas de cancer de muscle? Il est inondé d'acide lactique. Et je vais même vous dire quelque chose qui pourrait être épouvantable pour la personne en question. Regardez, vous avez suivi le Tour de France, regardez Armstrong. Armstrong a eu un cancer. Moi, à mon avis, il est en train de se l'auto-guérir en faisant 5 heures de sport par jour. Il est gonflé, il est imprégné d'acide lactique. Et la chute, ça, c'est que j'ai peur, quand il va arrêter le cyclisme, que tout cela rebondisse, si ce n'est pas bien jugulé. Vous comprenez? Il y a tellement de preuves. Puis il y a le bioélectromètre de Vincent, c'est-à-dire c'est un appareil qui a été mis au point par Vincent, qui est un physicien, un médecin, qui gérait les eaux de l'Île-de-France et qui a été étudié un peu plus loin. Il a étudié donc les liquides humoraux, la salive, le sang et l'urine. Et il s'est rendu compte qu'en faisant le bioélectromètre de Vincent, quand vous avez un pH alcalin, vous êtes sûr, c'est-à-dire un pH à 8, vous êtes sûr d'avoir un cancer. Et moi, j'ai des gens qui viennent me voir, je leur fais de temps en temps ce bioélectromètre, je ne leur dis pas, mais je leur dis, allez voir un peu plus loin, et on le trouve. Donc c'est prédictif. Puis vous avez des bilans qui nous échappent, qui sont interdits. Le bilan CEIA, c'est un bilan où on analyse les protéines. Les protéines, c'est ce qu'il y a de plus noble dans le corps. Et elle mémorise, c'est une mémoire, la mémoire du corps. Et on a des tests bien précis que j'ai mentionnés dans mon livre. Comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, j'ai fait vraiment le tour de la question et je prends des risques, hein, parce que le cancer, c'est un gâteau. Je prends des risques, c'est tous ceux qui s'y attaquent.
Ils ont des ennuis. D'ailleurs, on parlait de Gernès à l'instant. La suite, donc, je disais, Gernès a remis son rapport aux autorités politiques de l'époque. Et il y a eu une réunion au cours de laquelle des politiques et des patrons de laboratoires et des patrons de la médecine ont examiné la possibilité de mettre en route une énorme opération de prévention au niveau national, simplement en faisant une campagne en faveur du procédé Gernèse, de mise en acidose du corps et de prévention par l'alimentation. Un des patrons de ces médecins, des professeurs qui dirigeaient la partie scientifique de cette réunion, a convaincu les politiques de ne pas faire cette campagne en disant ce serait une catastrophe, d'abord parce que ça représenterait une perte sèche formidable pour les laboratoires pharmaceutiques. Deuxièmement, parce que il faut penser que tous ces gens qui vont échapper au cancer et qui vont donc vieillir dans 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, on les aura en surplus de vieillards dans les maisons de retraite et il faudra leur payer des retraites et ça nous coûtera une fortune. Et le résultat, ça a été que le rapport Gernèse a été mis sous le boisseau et que Gernèse n'a jamais pu le faire valider alors qu'il avait par exemple été en contact quasiment direct avec Pompidou qui lui avait dit « Dès que je serai président de la République, je ferai le nécessaire pour que ce soit appliqué. » Eh bien, Pompidou est devenu président de la République et il n'a jamais rien fait.
Nixon aussi aux États-Unis.
Et Nixon aux États-Unis. Ce qui donne une idée de la formidable puissance du lobby pharmaceutique et du lobby de la mort. Je crois que c'est Lumière qui disait lui-même au début du siècle, l'un des frères Lumière, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle jamais du prénom, qui disait « Le cancer fait vivre plus de gens qu'il n'en tue. » Et c'est vrai que c'est un pactole phénoménal quand on pense aujourd'hui que, par exemple, en ce qui concerne non pas le cancer mais le sida, la trithérapie coûte par jour ce que le traitement Beljanski coûte par mois. Et on comprend pourquoi les laboratoires, évidemment, si ça coûte, ça rapporte. Et ils préfèrent avoir un produit qui rapporte 30 fois plus qu'un produit qui rapporte 30 fois moins. Ça, on peut les comprendre. Par conséquent, ils mènent une guerre féroce contre des gens comme Beljanski, contre des gens comme Le Ribot qui, avec son G5, a des résultats stupéfiants, enfin prouvés. Moi, je l'ai essayé, ça donne des résultats tout à fait étonnants. Contre des gens comme... qui encore comme
Benveniste.
Bien sûr. Là il y a
Prioré,
Prioré,
Salomides,
etc. qui sont des véritables martyrs de la médecine. Et ce que j'apprécie chez vous aussi, c'est le courage exceptionnel que vous avez d'oser dire ça, parce qu'il y a très très peu de médecins qui osent
D'abord, ils passent au tribunal, et j'en connais qui sont interdits à vie, et ils vont en périphérie ou ils vont vers l'Espagne, etc. Et on a eu des grands cancérologues qui traitaient en médecine naturelle.
Il y a l'exemple formidable du docteur Masqui, Jean-Pierre Masqui, qui est à Nice, il a pignon sur rue à Nice, qui avait proposé une méthode de traitement, de prévention et de traitement de la sclérose en plaques. On peut pas faire plus simple. Enfin, en gros, il disait, prenez 2 douches par jour et marchez pieds nus. Parce que la sclérose en plaques est provoquée par une surcharge d'électricité statique. Si vous prenez des douches et que vous marchez pieds nus sur la terre, vous vous déchargez de votre électricité statique. Et je caricature, je résume, mais c'était ça, en gros. Il a été radié du Conseil de l'Ordre, il a été interdit d'exercer, et on a attendu qu'il soit à la retraite pour lui rendre son honneur en disant « C'est par erreur qu'on vous a exclu et qu'on vous a interdit d'exercer la médecine. C'est une erreur. Maintenant que vous êtes à la retraite, on peut vous le dire. Donc vous pouvez être retraité de la médecine. » Alors qu'on l'avait empêché d'exercer sa profession lorsqu'il était en activité. C'est incroyable. On est engagé dans une véritable guerre à mort.
Même à la communauté européenne, il n'y a aucun député qui représente les médecines naturelles, les médecines alternatives. Sur l'ensemble de l'Europe, alors que 40% des Français y ont recours.
Mais je peux vous dire que, on parlait tout à l'heure du Front National, j'ai un ami dont la tante a été sauvée par les traitements Beljanski, et qui était un cadre de bon niveau du Front National, et qui a essayé de convaincre les dirigeants du mouvement de mener une campagne en faveur de Beljanski. Il s'est heurté à un mur de refus. Il a dit non, pas question de se mêler de ce truc-là. Donc personne n'échappe à ça.
Et ils refusent l'expérimentation. Mais ils ont quand même, devant la pression, parce qu'il y a eu à l'époque le professeur Gelé, le président de l'Ordre du Nord, et beaucoup de patrons de l'époque, ont dit, ben, puisqu'il affirme que c'est exact, on va vérifier. Et on l'a vérifié à l'INSERM en 78 avec le professeur Truot sur des rats qu'il a payé lui-même, Gernès, et on s'est rendu compte qu'on a provoqué donc un cancer au niveau donc du foie, qu'on appelle un hépatome. 94% de cancers du foie ont été guéris, alors que c'est un des plus durs, hein, le cancer du foie. Mais on a plein de preuves, mais c'est incroyable le nombre de preuves. Mais bon, comme vous l'avez dit, il y a deux problèmes. Il y a les lobbies pharmaceutiques, il y a peut-être l'ego de certains profs, et surtout...
Ah bah dans le cas de Beljanski, c'est clair, hein, c'est la guerre contre Mono.
Il y a beaucoup de... Et en plus, donc, le fait d'appliquer cette stratégie à l'âge de 40 ans, ça prolonge la vie de 7 ans des Français, ce qui fait qu'on ne peut plus payer les retraites, voilà, etc. Et ça, c'est, on le sait, il y a une part de vrai.
Alors, revenons à votre livre, Jean-Pierre Willem, « Prévenir et vaincre le cancer », car c'est un livre donc, qui rentre dans le chou de ces tabous, en disant des choses extrêmement simples, mais complètes. Par exemple, vous consacrez un chapitre à le rôle de l'environnement dans la prévention du cancer. Mais ça va très loin, parce que vous expliquez qu'il faut un habitat sain, qu'il faut une bonne ventilation, qu'il faut prévenir certaines nuisances extérieures, qu'il faut... Alors là, ça va provoquer des hurlements, bien sûr, des crânes d'œufs, mais qu'il faut se méfier des perturbations cosmotelluriques. Alors, ben oui, quand on emploie des mots comme ça...
Il y a des maladies qui surviennent à certaines saisons, donc on ne sait pas, c'est les dégagements cosmotelluriques.
Les pesticides, les plantes... alors, vous parlez des plantes antipolluantes aussi, ce qui est très intéressant.
Oui, il y a un aspect positif à chaque fois, c'est pas des espérances.
Non, c'est pas du tout... Non, parce qu'au contraire, vous montrez que c'est pas une fatalité, en fait, que ça peut être évité, et si on l'a pas évité, on peut encore le guérir.
On peut, oui.
Alors, il y a toujours cette chose qui devient obsessionnelle en ce moment, semble-t-il, c'est cette dénonciation du lait. Alors, vous y revenez. Parmi les aliments déconseillés, vous insistez sur le danger présenté par le lait. Et je constate qu'il y a de plus en plus de médecins qui disent la même chose, qui disent que le lait est un produit dangereux.
Ils ont fini par l'admettre, parce que finalement, est-ce que vous avez vu dans une prairie une vache qui était une autre vache, même en période de canicule? Il y a un code génétique. Hein, et en plus, là, un enfant de 5 ans, il n'a plus, il perd sa lactase. Tout est bien fait dans la nature. Bon, on lui donne 5 ans, donc et on est les seuls adultes mammifères à boire ce lait et la mission du lait de vache, c'est de faire grossir un veau de 20 kilos à 400 kilos à 6 mois et de l'abattre. C'est pas le propre de... Mais en revanche, vous pouvez boire du lait quand même de chèvre, de brebis, de même le fromage. Hein. Je bloque pas tout. Hein, mais il faut le savoir, vous avez des gens qui ont par exemple de l'eczéma, qui ont même un genou bloqué ou qui a de la pyorée due au laitage. Hein, et il y a aussi le sucre raffiné qui est pas bon.
En plus, pour en rester au laitage pour l'instant,
oui.
C'est vrai que les laitages aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les laitages.
Ils sont pasteurisés.
Il
n'y a plus de vitalité.
C'est de l'eau morte.
Ça ne vibre plus.
Alors le sucre, effectivement, le sucre raffiné, dont vous dénoncez les dangers. En fait, j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps à ce micro le docteur Pourtalet.
Oui.
Je lui ai posé une question que je voudrais vous poser, j'espère que vous ne formaliserez pas. Quel âge avez-vous ?
65 balais.
65. Et alors, on a l'impression que ce soit pour le docteur Pourtalet qui lui avait quel âge, Victoria, vous vous souvenez ? 74 ans.
Oui, 75, je crois.
Ou vous, on a l'impression que vous êtes des publicités vivantes pour vos préconisations, parce que lui, il est absolument magnifique. Enfin, il fait 20 ans de moins que son âge.
Il opère encore. Hein.
Et il est vraiment impressionnant de forme. Vous êtes impressionnant aussi. Vous êtes un grand gaillard aussi. Vous êtes une force de la nature, physiquement. Mais est-ce que vous-même, vous avez toujours appliqué dans votre existence
malheureusement, parce que j'ai une vie un petit peu... Vous savez, j'ai sillonné 40 ans à travers la planète, et c'est dur d'avoir un certain confort alimentaire, etc. Il y a eu des nuits, etc. Bon, ça, mon parcours, il est un petit peu en dehors, mais... ma famille essaye quand même de suivre le plus possible. Il y a aussi le mental qui joue, hein, ça c'est évident. Hein, j'avais fait un article, vous savez, dans Pratique de Santé, Le Crime Parfait, oui. Où j'avais expliqué comment on tuait quelqu'un. Moi, je connais le système, c'est pour ça que je ne...
En le stressant.
Ouais. Si vous lui envoyez le fisc, etc., vous lui videz ses surrénales, il n'y a plus de cortisone, et c'est le feu à la baraque. Et il va commencer par avoir des pathologies en hit, arthrite, les rectocolites, les pancréatites, et après la dernière phase, c'est le cancer. Tout ça, c'est mathématique et scientifique.
Ouais. Mais c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs très très souvent des gens qui ont eu un gros problème dans l'existence, qui ont une perte d'emploi ou une ruine.
Mais 5-6 ans après, ils se dégagent et ils ont oublié. C'est un petit peu la théorie de Hammer, qui est bon, qui est pauvre, il est en tôle aussi, celui-là. Bon,
on en a parlé tout à l'heure.
Je suis un des rares à ne pas avoir été en tôle. Bon, en parlant de psychoaffectif, mais la médecine classique ignore les problèmes psychiques. Ça n'existe pas, hein. Le mental n'existe pas. Aux États-Unis, si on est un petit peu plus en avance, mais quand même, on bloque certains systèmes dus au lobby. Mais ils progressent.
C'est-à-dire qu'en France, dès que vous essayez de parler justement du mental, vous êtes taxé de sectarisme. C'est une secte. Vous appartenez à une secte.
Mais j'ai pas parlé de la foi qui déplace les montagnes.
Non, Dieu merci, vous avez bien fait d'éviter, parce que autrement vous voyez pas où vous étiez. Mais je vois une des attaques qui avait été faite contre Beljanski par un de ses anciens obligés d'ailleurs, c'était d'avoir monté une secte autour de ces produits, ce qui est complètement grotesque. Enfin, c'est à des milliers d'années-lumière du comportement intellectuel et des choix de vie de Mirko Beljanski, qui était un homme d'une parfaite rigueur morale.
Que j'ai bien connu. Et que j'avais mis en garde, hein. Je savais pas qu'il était fragile au niveau des commentaires autour de lui. C'est comme vous, c'est bon signe, hein. Il y a Schweitzer qui me disait, je lui en parlais déjà, Schweitzer, donc en 64, là, il me disait, si on parle de toi, c'est bon, ça veut dire que t'existes. Et c'est vrai, quand on parle de personne, c'est qu'on est fade.
C'était Charles Aznavour qui m'avait dit ça un jour, je faisais une interview, il m'a dit, dites du bien, dites du mal, l'essentiel c'est que vous parliez de moi.
Ah, oui.
Alors, revenons à votre livre. Donc, première partie, la prévention. Une partie, la prévention.
J'explique bien aussi le parcours que quelqu'un qui a un cancer suit. Voir avec tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on va lui faire, etc. Ça, c'est important parce qu'on n'explique pas.
Ça, c'est très important. Parce que
tout est codé. Là, je décode, je lui donne où il en est, dans quelle impasse il est, ou si ça se présente bien ou pas. Et après, donc, il y a le préventif qui est l'aspect positif. Hein, avec, il y a un protocole annuel, donc on fait ça surtout au printemps ou au moment donc du carême. Et c'est là donc on met en réduction alimentaire, c'est-à-dire pendant un mois faire un seul repas, c'est-à-dire il faut perdre 3% de son poids pour être légèrement en acidose et vous éviter les choses, plus des nutriments, des compléments qu'on maintenant on est vraiment à la mode, on connaît, et deux petits antimitotiques pour balayer la lie cancéreuse qu'il y a, parce qu'on est envahi de cancer puissance, hein, puisque 2 sur 3 meurent d'un cancer, parce que l'infarctus, comme disait qui a été reconnu comme un cancer qui évolue sur 25 ans, l'infarctus. Alors bon, on n'en parle pas comme cancer, mais l'athéromatose, c'est un cancer, hein, c'est bien expliqué. Donc le processus d'attaque est le même. Alors à partir de là, donc si vous mettez donc cette petite, et puis en plus vous éliminez les toxines quand vous faites, puis ça fait pas de mal, ça, c'est une lutte, il y en a marre d'être assisté médicalement, il faut de temps en temps lutter avec donc les bons nutriments qui sont connus, et puis 2 antimitotiques, il y en avait 2 dans le temps qui ont été supprimés parce qu'ils marchaient bien.
Il y avait
le sirop de tessèdre qu'on donnait aux enfants qui avaient des poussées dedans. Le labo, on l'a fait couler, c'est l'hydrate de chloral, et on s'en servait depuis 19...
C'était un anesthésique très léger.
Oui, très léger, pendant un siècle ça marchait, et la colchicine. Alors la colchicine, le labo, faut pas y parler dans cette indication. Alors on avait contourné la difficulté en donnant la teinture de cocheux, qui est donc de la colchique naturelle. Eh bien, le labo a coulé. On l'a fait couler. Tout ce qui marche, hein, que ça soit je préconise aussi le G5, hein, dans mon livre, qui est excellent, hein, Et bon, les produits de Belgianski, il y a les produits du professeur Tuberi, que vous connaissez peut-être pas. C'est un brave homme qui était à la coopération, qui a découvert des plantes au Cameroun. Eh bien, il a fait de la tôle. C'est un petit bonhomme de rien du tout. Il y a 8 costauds de gendarmes qui sont venus l'arrêter, comme si on pouvait 45 kilos. Bon, et maintenant, ils sont reconnus. Dans la leucémie, les produits du docteur Tuberi marchent. Et c'est un homme d'une humilité, et tous ses produits, il n'a pas de brevet, il l'a mis dans une coopérative, faut pas que ça coûte cher, qui est l'association Solidarité à Toulouse. Alors vous avez plein de gens qui se mettent dans des positions de saints, et on est obligé en plus, pour faire passer le message, de faire de la médecine des catacombes, c'est-à-dire se planquer. Bon, on transmet comme ça l'information, sinon vous êtes moi par exemple, j'ai une association humanitaire qui est quand même importante, il y a eu la Golden Party, toutes les associations étaient invitées, monsieur Chirac m'a pas invité. Vous voyez, il y a une discrimination, mais je rentre pas dans les détails, vous pouvez pas savoir dans quel enfer on nous met. Enfin, je ne veux pas être parano.
Non, mais c'est très intéressant de le dire, parce que
c'est incroyable.
Les auditeurs ne le savent pas forcément, parce que c'est évidemment, c'est caché, peu de gens le savent, et c'est quand même central. C'est une question centrale, c'est-à-dire, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, dont la mission est, dont la charge est d'avoir le souci du bien-être de leurs concitoyens ou de leurs administrés, et qui, pour des raisons strictement mercantiles, des raisons strictement financières, choisissent de laisser mourir ou de faire mourir leurs contemporains en pleine connaissance de cause, pour préserver les intérêts, des intérêts privés, les intérêts des grands laboratoires pharmaceutiques, lesquels grands laboratoires pharmaceutiques les corrompent, évidemment, en remerciement, leur donnent de l'argent, financent leur campagne par divers biais. Donc il s'agit d'une mafia, là.
Les produits, comment...
Une mafia criminelle.
Et des produits qui vous avez vu, il y a le professeur Debré qui vient de sortir un livre, qui lui aussi se retourne contre tous ces produits, il y a eu le Cox, etc., qui sont... Et regardez aussi les pesticides qui sont des molécules qui ressemblent à la folliculine. Ouais. Finalement, l'homme a 4 fois plus, à cause de ces pesticides, a 4 fois plus de cancers génitaux, la prostate a monté par 4. Et la spermatogénèse, à cause de ces pesticides, la folliculine a chuté de moitié en 30 ans.
Et il y a un papier dans l'expansion, là, que je disais tout à l'heure. C'est une experte en toxicologie qui a décrypté le contenu de l'armoire à pharmacie des cadres. Et alors, il dit, c'est affolant. Effectivement, elle écrit, la journée du 4 commence par un coup de starter, un cocktail de vitamines agrémenté d'une dose de Guronzan, un stimulant, avec lequel il avale un Prozac afin de voir la vie en rose. Pour faire face à une première réunion de travail, il prend de l'avlocardil, qui est un bêta-bloquant, qui le rendra zen. La soirée au bureau se prolonge, il prend de l'olmifant pour rester éveillé, et le lendemain pour récupérer, il prend un Stilnox pour dormir, et un Mogadon pour bien dormir, et le lendemain pour récupérer, il reprend un produit pour sortir de son coma, de son quasi-coma médicamenteux. L'armoire à pharmacie de certains cas soumis à forte pression déborde soudain. Bénédicte Lepère, docteur en pharmacie spécialisé en toxicologie à la clinique Montevideo, établissement traitant des addictions, c'est-à-dire soumissions à une habitude, à une drogue, nous a aidé à identifier les produits les plus demandés, anxiolytiques, antidépresseurs, hypnotiques et autres psychotropes. Aujourd'hui en France, un cadre sur 5 se dope aux médicaments pour faire face au tracas de la vie quotidienne. Et il est évident que ce garçon, comme vous le disiez tout à l'heure, un jour ou l'autre, il va développer un cancer de stress. Le phénomène s'est encore accéléré avec l'arrivée d'Internet, parce que là, on est vraiment au cœur de la crapulerie mercantile. Ce que ne délivre ni le pharmacien ni le médecin peut se trouver sur la toile. Quand on est à une époque dans les milieux de la finance, du mannequinat, de la création, de la pub, ce dopage touche aujourd'hui toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges, tous les sexes, constate Bénédicte Lepère. Et c'est vrai qu'on connaît des élèves qui, au moment des examens, commence à se bourrer d'anxiolytiques, de psychotropes, d'antidépresseurs, de trucs pour rester réveillé la journée, de trucs pour s'endormir la nuit, de trucs pour bien dormir la nuit. Le but, c'est d'être plus fort, plus beau, plus performant dans tous les moments de la vie. On craint de ne pas être à la hauteur. Il y a un refus de ses propres limites. Au fond, pourquoi se priver si on sait qu'un petit cachet empêche de se sentir mal? Mais ce qu'ils appellent une béquille chimique n'est pas sans danger. Outre le système cardiovasculaire, le foie, les reins peuvent être touchés et des troubles psychologiques peuvent apparaître. Passer la phase de l'usage pendant laquelle on bénéficie des avantages, celle de l'abus peut vite l'emporter et on bascule alors dans la dépendance. Alors, on est dans une société maintenant qui est une société...
Plus les suicides, alors, ça suppose que ces thérapies ne marchent pas puisque il y en a qui échappent.
Le Prozac, par exemple, il y a eu des études en double aveugle qui ont été faites qui montrent que le Prozac, c'est exactement peanuts.
Oui, ça désinhibe et ça vous fait voir la réalité. Et vous ne supportez pas, vous flinguez. Voilà. Et pareil au Japon, vous avez vu, maintenant c'est collectif les suicides au Japon.
Mais ça, il y a aussi d'ailleurs la coalition d'un terrain prédisposé et d'un genre de vie nouveau, parce que c'est vrai que le Japon a toujours eu à l'égard, enfin les Japonais, la culture japonaise à l'égard de la vie et de la mort n'est pas du tout notre culture à nous, c'est très très différent. Il y a à la fois un culte étrange de la mort, puisque les femmes qui se font avorter au Japon font des fausses tombes pour aller saluer tous les ans les enfants qu'elles ont fait avorter. Donc c'est très étrange comme comportement. Et en même temps, il y a une espèce de mépris de la vie, ou plutôt de culte de la mort à travers la souffrance, qui est témoigné par le seppuku et par les comportements héroïques
des combattants, etc.
Voilà. Non, c'est alors quand là-dessus arrive un système médicamenteux, enfin une dictature pharmaceutique comme celle qu'on connaît aujourd'hui, ça provoque évidemment des ravages. Et en pleine connaissance de cause, puisqu'un des problèmes du Japon, c'est aussi la surpopulation, et que quand les gens se suicident, ça limite la surpopulation.
Et pour le Prozac, là, j'ajoute, bon, lui, il est toléré, mais vous avez des bonnes plantes qui sont supérieures au Prozac qui ont été interdites. Hein. Vous avez le millepertuis.
Le kawa, par exemple.
Le kawa-kawa, qui est traditionnellement donc en Nouvelle-Calédonie ou bien en Polynésie, pour l'accueil, c'est un apéritif non alcoolisé, quoi, pour désinhiber l'ambiance. Et alors, bon, moi j'en ai remis, j'ai remis par exemple le griffonia, c'est une légumineuse, on peut pas l'interdire, qui est supérieure au Prozac, on peut pas l'interdire. Et j'ai mis toute une gamme de nouveaux produits qui ont été mis au point à base d'huile essentielle qu'on appelle les aromanutrients, qui font merveille. J'ai mis donc toutes les dernières découvertes. Là, je rentre du Vietnam, j'ai été invité au Vietnam, ils ont fait un institut qui porte mon nom, et il y a beaucoup de patrons donc autour. Parce que il faut rappeler quand même qu'une molécule chimique, pour la mettre au point, faut 10 ans. Ça coûte 1 milliard. Faut l'amortir. Idem pour les produits donc anti-sida. Et alors nous, il y a des produits naturels en teinture, etc., qui fonctionnent tout de suite, que les gens ont employés. Alors, à travers le monde, il y a beaucoup de gens qui me donnent ces molécules, qui ont été expérimentées, etc. Alors on saute 10 ans avec des produits qui n'ont pas d'effet secondaire et qui sont directement assimilables, hein, un peu comme les produits de Bejansky et autres, quoi.
Vous republiez également dans les peuples dans Prévenir et vaincre le cancer des extraits, je suppose, de votre premier livre qui était Les peuples sans cancer, qui avait fait beaucoup de bruit puisqu'on avait découvert à travers vous l'existence des Hunza notamment.
Les Hunza, mais il y a
devenu mythique.
Oui, mythique, mais malheureusement. Il y a une route, c'est la route du... Vous savez que c'est un pays qui est... ce sont des musulmans calmes, les tourneurs, comment vous appelez ça, les soufis. Voilà, c'est l'Aga Khan qui est leur patron.
Les derviches.
Voilà. Eh bien, ils vivent là auprès du Cachemire, mais malheureusement, il y a une route, et la route du Karakoram. Et maintenant, ils vivent à l'occidental et les performances ont chuté. Ils ont eu des frigos, etc. Mais vous avez encore quand même des bons exemples. Vous avez l'île d'Okinawa. L'île d'Okinawa, où il y a eu pas mal de morts, il y a eu un film, où sont les Américains. Eh bien, ils vivent entre 100 et 120 ans. Pourquoi? Il y a une tradition là-bas, ils mangent 80% de ce qu'ils devraient manger. Et ça se maintient. Et vous avez...
Donc ils sont... tout le temps en acidose, alors ils sont...
Je crois qu'ils modulent. Ils modulent un peu, mais la tradition, c'est 80%. Je ne sais pas comment ils y arrivent. Ça porte un nom, Ara, Tibou, je ne sais plus exactement. Eh bien, toujours est-il qu'il y a trois fois plus de centenaires qu'au Japon. Or, au Japon, c'est là où il y a le record des centenaires. Et donc, rien qu'en se mettant en réduction alimentaire, puis une bonne bouffe, évidemment. Ça, c'est pas du... Hein, et puis, ils doivent être heureux quelque part, malgré la présence des Américains ou avec la présence, parce que il y a eu quand même un choc à cette époque-là. Et alors, les jeunes qui veulent s'occidentaliser, leur performance s'écroule. Vous voyez, ça n'a qu'un temps et c'est très démonstratif. Vous avez presque une démonstration à double aveugle. Suivant, vous épousez donc les traditions qui vous mettent en bonne santé et où vous les abandonnez. C'est net. Hein, en 3-4 ans, on voit la différence.
Ce qui est intéressant, c'est que on discerne à travers ce que vous dites un véritable projet. C'est-à-dire que d'une part, vous avez une industrie alimentaire qui produit, enfin qui fabrique des produits qui sont des produits nocifs, qui donc génère des troubles, des maladies. Là-dessus, on s'oriente, bon, pour soigner ces maladies, vers des traitements. Et on pourrait en ce qui concerne les produits alimentaires, ils procèdent d'une agriculture qui a été mise en servitude par le politique, puisqu'on a interdit des tas de produits où on a obligé les paysans à travailler de certaines manières, ce qui a donc donné des produits mauvais, qui sont traités par l'industrie alimentaire qui en fait des produits encore plus mauvais en injectant dedans des sucres,
antibiotiques,
des choses comme ça.
Facteurs de croissance.
Des facteurs de croissance qui provoquent des maladies. Lesquelles maladies doivent être soignées? Et à ce moment-là, l'État réintervient en bloquant la possibilité d'accès au traitement naturel et en obligeant à recourir aux produits de l'industrie pharmaceutique qui sont au moins aussi nocifs que les produits de l'industrie alimentaire qui provoquent les maladies. Et on a vraiment l'impression qu'il y a une coalition mafieuse entre le pouvoir politique et le pouvoir économique des industries agroalimentaires, alimentaires et pharmaceutiques qui est au service d'un plan, qui est un plan satanique, tout simplement.
Bien sûr, on est piégé.
Le projet, c'est de faire disparaître la plus grande part de l'humanité. Et il faut savoir que ça a été dit, ça, par Kissinger, par les Rothschild, par les Rockefeller et compagnie, qui disent qu'il faut réduire l'humanité des 9 dixièmes, quand même.
C'est grave ce que vous dites, là. Moi, je le sais, mais je n'osais pas le dire.
Oui, mais...
Et le sida
aussi.
Oui, parce qu'il n'y a pas de planning familial. C'est pas machiavélique, c'est pervers.
Alors, le sida, il y a un mensonge là qui est en train de se développer depuis quelques jours. On nous dit les femmes sont plus touchées par le sida. Alors, c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire, c'est vrai pour les pays considérés, parce que dans ces pays qui sont des pays de grande pauvreté et de mœurs, de religion primitive, la femme ne peut pas se refuser son mari, c'est absolument impossible. D'autre part, les maris sont habitués au vagabondage sexuel. Ils vont généralement travailler loin parce qu'ils n'ont pas d'argent, et là ils rencontrent des femmes et ils utilisent des prostituées. Et d'autre part, les prostituées sont de plus en plus nombreuses, étant donné l'état de très grande pauvreté, c'est le seul moyen qu'elles ont de vivre et de faire vivre leur famille. Donc naturellement, dans ces pays-là, le sida se développe beaucoup plus rapidement chez les femmes. Mais en Occident et dans les pays développés, c'est un mensonge absolu de prétendre que les femmes sont plus victimes du sida, car les femmes représentent une minorité dans la population atteinte du sida, l'immense majorité de cette population étant les invertis, premièrement, et deuxièmement, les utilisateurs de drogues par piqûre.
Vous savez qu'il y a une explication biochimique. Hein. Vous ne pouvez pas faire de sida au niveau du vagin. Il a un pH acide.
Voilà.
Ça, c'est le bioélectromètre de Vincent qui vous le dit.
En revanche...
Vous êtes drogué ou au moment des règles. Mais le rectum est très alcalin. Si vous mettez des germes au niveau du rectum, c'est une boîte de pétri, c'est une flambée.
Ouais.
Je ne suis pas moraliste, hein, c'est la biochimie qui me le dit. Et le jour, si on pratiquait l'homosexualité, tous, il faudrait attendre des milliers d'années pour qu'il y ait des organes qui viennent vous protéger. Si c'est pas fait, la nature est toujours bien faite. Il n'y a pas d'erreur. Bon, on la bouscule pas mal. Hein. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Donc, le pH est très alcalin et il n'y a rien, il n'y a aucune protection au niveau des ganglions lymphatiques, etc.
Alors, vous avez consacré aussi un chapitre, chapitre 14, à l'homéopathie. Alors, ça va provoquer des hurlements, je les entends d'ici, c'est pourtant pas très loin. Mais dans quelle mesure l'homéopathie peut-elle prévenir, voire traiter.
Au niveau du terrain, hein, vous améliorez donc le terrain, mais il faut pas compter sur l'homéopathie pour guérir un cancer, ça n'existe pas. Mais vous améliorez des symptômes, par exemple la perte des cheveux, hein, vous l'évitez, le système digestif est plus confortable si vous en prenez, etc. Vous avez des petits trucs qui marchent, mais c'est pas miraculeux. Hein. Ce qui marche bien, c'est les huiles essentielles et puis des molécules dont j'ai parlé, les anti-néo-angiogénèses, c'est-à-dire, vous savez qu'un cancer a besoin de beaucoup plus de nourriture, donc de vaisseaux, il y a plein de vaisseaux, vous les coupez les ponts. Vous les coupez, oui. Hein, avec un anti-néo-angiogénèse, ça veut dire développement des vaisseaux. Ah. Et vous avez donc des formules, vous avez là.
En fait, ça assèche la tumeur.
Ça le stérilise, ça le prive de ses bases de nourriture.
Mais ça se fait par des produits naturels.
On avait essayé le requin. Parce que le requin n'est pas de cancer, mais
le cartilage de requin, pendant un moment, c'était très à la mode.
Oui, mais ça ne donne rien. D'abord, je pense que le requin, il est acide, son corps, et il développe pas tout simplement de cancer. Faut étudier. Malheureusement, on n'a pas d'argent, nous, en médecine, pour faire ces études. Mais la science devrait s'y intéresser. Et donc, vous avez à ce niveau-là, donc, des médicaments qui bloquent donc ce système. Vous avez aussi les feuilles de Corosol. Les feuilles de Corosol, vous n'avez jamais été en Indochine, mais c'est très connu et ça marche, c'est vendu et c'est beaucoup plus fort que l'adriamycine. Vous voyez, j'ai plein de petits, oui, ça fourmille de renseignements et qui sont pas toxiques. Hein.
Oui. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce livre, c'est qu'il est un livre, je dirais, en boule de balle parquet, c'est-à-dire qu'il renvoie la lumière dans tous les sens. C'est pas un livre de doctrine. C'est pas un livre théorique, c'est un livre qui dit il y a une partie de la solution dans toutes les directions de la médecine. Toutes les directions de recherche sont bonnes à partir du moment où elles donnent des résultats positifs.
Oui, surtout que je passe les cancers les uns après les autres, ouais. Et je dis voilà, plutôt cette thérapie va plutôt convenir au cancer du rein ou au cancer de, il y a beaucoup de cancers par exemple de la thyroïde actuellement, hein. Thyroïde et pancréas, ça c'est les cancers et génitaux, c'est les cancers de l'avenir. Hein. On ne sait pas pourquoi, il y a une hypothyroïdie qui s'explique d'abord au niveau, en homéopathie, il y a beaucoup de psychos, c'est tous les polluants qui fait que les thyroïdes sont faibles. Et bon, puis alors peut-être les retombées de Tchernobyl, ou certainement. Et le pancréas, c'est l'organe de l'affect, qui est très sollicité. Vous avez maintenant des cancers du pancréas à 50 ans, ce qui est jeune, avant beaucoup plus long. Donc vous avez des nouveaux cancers qui viennent dus à la contemporanité de la vie moderne.
Alors vous parlez, parmi les innombrables possibilités de traitement que vous évoquez, ou les innombrables aspects de la pharmacopée, vous parlez de la pharmacopée coréenne, oui. Et vous évoquez le ginseng.
Ça
fait un peu rire toujours ça, le ginseng.
C'est plutôt un complément alimentaire, hein, je l'ai mis parce que, évidemment, il faut, d'abord c'est une plante adaptogène qui vous permet de résoudre un peu, adaptogène, de vos stress, hein, parce que les stress c'est très important, donc le ginseng, c'était sa fonction avant. Souvenez-vous que les vieux Chinois, avant de mourir, ils se mettaient de côté du bon ginseng qui coûtait cher. Et ça leur permettait, au leur dernier jour, d'être lucides, de préparer leur mort, etc. Ouais. Il faut connaître les rituels dont vous avez évoqué tout à l'heure. C'est très important. Il y a toujours de l'intelligence. Hein. Toutes les cultures ont une intelligence qu'il faut aller essayer de décoder. Et moi, il n'y a pas que le ginseng, mais c'est surtout, vous avez le vinaigre de chêne là, qui se vend actuellement, qu'on appelle
Oaki. Oui.
Oaki, parce qu'il y a un rayon qui a été flambé, c'est pas le mot, mais il y a de l'intelligence. Infrarouge dedans, et ça permet de perméabiliser les membranes. Et vous avez plein comme ça.
En plus, c'est très bon.
Oui, c'est bon. Puis,
c'est un peu fumé, c'est très bien.
Il y a aussi la mégamine, c'est-à-dire cette molécule, qui a été interdite. Elle était interdite. D'abord en Autriche où le gars l'a mis au point, faut d'abord dire ce que c'est que la mégamine, c'est de la roche volcanique, de la lave volcanique qui a été broyée.
J'ai reçu récemment à ce micro
Dumérac,
oui.
Ah oui, voilà.
Qui est quelqu'un de passionnant.
Ah, il est passionnant, il a de la classe. Ouais. Et alors, ça a été appliqué par les grands athlètes, parce que ça marche donc à tout niveau. Vous aviez le boum boum, je sais plus comment on l'appelle, qui était champion.
Becker.
Becker, il en prenait. Alors vous avez plein de gens qui en prennent comme ça, comme les médicaments, et d'autres ne peuvent pas. Donc c'est sous cap, quoi. Ouais. On n'en parle pas. La mégamine est souveraine.
Maintenant, justement, Dumérac est en train de.
Il en vend, hein, maintenant.
Il en vend. Oui, oui. Il a repris la commercialisation et ils ont fait notamment. Il va revenir en parler prochainement, d'ailleurs, parce que. Ils sont en train de mettre au point, enfin ils ont fait une expérimentation, étant donné que ce sont des cellules, enfin pas des cellules, une poudre extraordinairement microscopique de zéolite. La zéolite, chaque grain de zéolite, aussi infinitésimal soit-il, contient des cavités. Et dans ces cavités, il emmagasine des produits. Si on le traite, si on le met au moment du mélange, on introduit des produits dans le mélangeur, la mégamine se charge de ces produits. Et là, ils ont fait une expérience avec un produit qui est à base de tomates, de peau de tomate, d'une tomate particulière, qui donne, c'est absolument ahurissant, vitamine C, enfin une charge en vitamine C qui est 1084 fois supérieure à la vitamine C habituelle.
Référence, oui.
C'est incroyable. C'est-à-dire que pour quand on prendra un gramme de 7 mégamines, on aura des effets comparables.
Potentialisés
à un kilo de vitamine C. Ouais. Alors c'est une révolution formidable parce que la vitamine C, la vraie, c'est l'un des produits les plus chers au monde. Pas celle qu'on achète, pas la vitamine C UPSA qu'on achète à la pharmacie du coin, mais la véritable vitamine C extraite, il faut traiter je ne sais pas combien de centaines de kilos pour avoir un kilo de vitamine pure, et eux arrivent à avoir un résultat donc 1084 fois supérieur au résultat de la vitamine C du commerce. Et c'est à l'état pour l'instant de projet, d'étude, mais je pense que ça va aboutir assez rapidement. Et là, je crois qu'avec la mégamine, on tient un produit...
Une belle molécule.
Une belle molécule, et surtout qui est un vecteur, qui permet d'apporter au plus profond, presque de la cellule, directement... les produits efficaces.
Ça, c'est ça que la grande pharmacopée essayait de trouver, c'est ce véhicule pour ne pas embarrasser tout l'organisme, et ça va exactement, parce que pour l'instant on met que des virus, hein. C'est les virus qui transportent mais qui n'ont pas donné l'effet souhaité, hein.
Alors une auditrice nous dit, pas d'accord, l'homéopathie m'a guéri de l'asthme, elle a aussi prolongé de 10 ans la vie d'un cancéreux condamné. Mais vous n'avez pas dit que ça guérissait pas, vous avez dit que ça ne guérit pas le cancer.
Ça améliore le terrain.
Ça améliore le terrain, donc ça peut expliquer le prolongement de la vie, mais ça ne guérit pas.
Ça contribue, hein. Vous savez, on prend tellement de choses à autour qu'on peut pas mettre celui. Évidemment, il peut y avoir des cas très particuliers, mais
c'est pas contradictoire avec ce que vous dites.
Il faut pas généraliser, dire aux bonnes gens, vous avez un cancer, prenez de l'homéopathie. Ça, c'est non, vous êtes en dehors de la plaque en disant ça.
Vous parlez également d'un produit qui est le chitosan, enfin l'extrait du chitosan qui s'appelle le chito-MFP.
Oui.
Alors c'est un extrait de crabe.
De crabe, oui. Oui, oui, et qui stoppe l'apoptose, c'est-à-dire il est antitumoral et il marche bien. C'est un remède de coréen aussi.
Oui.
Et il y en a un troisième aussi, je ne sais pas si vous voulez, je ne l'ai pas mis parce que c'était... Il y a un autre qui transforme le testostérone, le cholestérol en testostérone.
Alors bon.
Mais l'inconvénient, c'est qu'il y a des érections, quoi. C'est fait pour, vous me direz, maman, il faut quand même...
Quand vous pensez que l'un des gros marchés en ce moment, c'est le Viagra, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en plaindraient.
Oui, il faut une juste mesure quand même, on n'a pas que ça à faire. Hein.
On ne peut pas passer sa vie, effectivement, à ça. Alors voilà, c'est un des aspects très très intéressants de ce livre, c'est le nombre de produits inconnus, mal connus que vous citez et dont vous donnez les vertus. Alors je vois qu'il y a le maïtaké, le fameux
maïtaké. Les champignons chinois qui remontent les défenses immunitaires. Vous avez shiitake et maïtaké. Alors là, il y a eu des résultats sensationnels.
Oui, c'est pas très amusant à consommer quand même, hein. Quand on a ça chez soi, je me souviens pendant un certain temps, on avait je crois que c'était du shiitake d'ailleurs, qui se développe. C'est un peu inquiétant. On a l'impression d'avoir une bestiole extraterrestre à la maison.
Ah oui, 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 c'est vrai. Oui, il y a des champignons qui sont très particuliers, oui.
Et puis alors, j'ai lu un texte très intéressant sur le gui.
Mais c'était
Viscum album, parce que pour moi le gui c'était un poison.
Non, il y a une analogie à faire, c'est-à-dire que le gui, vous savez qu'il parasite un arbre, hein.
Oui.
Alors le gui c'est le qui devient le viscum. Et alors on pousse un petit peu la subtilité en disant qu'il y a un gui pour la femme, c'est le viscum, la pomme en latin, je ne sais plus, comme mali, viscum mali.
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 C'est mêlé la pomme. Hein.
La pomme, donc mali. Et vous avez le viscum pini, c'est pour l'homme. Donc, et parce qu'il aspire, il suce donc la substantifique de l'arbre parasité. Ouais. Donc on s'est dit, par analogie, que ça va aspirer le cancer. Et il y a des résultats. Vous avez des médecins qui ont fait des thèses et qui ont des résultats.
D'autant que le gui, lui, apporte quelque chose. Il y a un échange qui se passe.
Oui, j'ai dit parasitisme. C'est pas un parasitisme strict. C'est exact.
Voilà, on va garder quelques minutes pour donner la parole aux auditeurs et faire les annonces. Le livre du docteur Jean-Pierre Willem qu'il faut lire et garder, Prévenir et vaincre le cancer, paru chez Guitre et Daniel éditeur. Alors je prends un tout petit reproche mineur, tout à fait mineur, mais quand même, il y a notamment dans les titres, c'est assez classique, pas mal de coquilles.
Il y a beaucoup de fautes.
Ouais. C'est la première édition, je pense que ça s'arrangera.
Oui.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez classique parce que...
Je l'ai refait déjà. Hein.
Les titres, on les lit pas en général, titres, on les voit pas, les coquilles.
Exact.
Donc c'est pas grave, ça trompe pas,
exact.
Ça ne trouble pas la compréhension du tout. Mais de temps en temps, on voit, je citais
pas. J'aime pas les fautes, hein, moi, personnellement, fautes.
C'est un détail. Jean-Pierre Willem, prévenir et vaincre le cancer, chez Guitre et Daniel. Alors Guitre et Daniel a une nouvelle adresse, je crois qu'ils ont déménagé.
Oui, ils sont près de Saint-Michel.
19 rue Saint-Séverin.
Oui.
Voilà. 75-005 Paris.
Il est dans toutes les librairies. Hein.
Voilà. Vous avez, Victoria, 3 minutes pour les annonces, si vous voulez.
Ben, je demande d'abord, est-ce que vous prévoyez de faire une conférence prochainement?
Ben, j'en fais assez souvent, mais ce qu'il y a, c'est que je fous la pagaille parce qu'il y a trop de monde. Hein.
Bon, d'accord. Recevez-vous ou votre association de médecins aux pieds nus donne-t-elle des consultations?
Ben, il faut m'écrire. Hein. Il faut m'écrire au 9 rue du Général Beuret. 9 rue du Général Beuret. Et là, je donne des conseils.
C'est quel arrondissement?
15e. C'est près de Cambronne. Hein.
Voilà. Et puis, oui, c'est tout, là. Il y avait beaucoup de messages, il y avait beaucoup de demandes de consultations diverses, mais bon, on n'a plus le
temps. Mais je suis submergé, des fois, jusqu'à 3h du matin.
Hein. Je m'en doute. Vous auriez dû faire toute l'émission. Alors, je rappelle que l'Association des écrivains catholiques organise sa grande vente de livres vendredi 26 novembre de 14h à 19h à la mairie du 6e. Samedi prochain, 27 novembre, de 15h à 18h30, Henri de Germay dédicacera « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont. Le vendredi 26 novembre prochain à 20h30, chez la Mère Agitée, 21 rue Campagne Première dans le 14e, dîner récital du docteur Merlin. Merci de vous inscrire au 01 43 35 56 69. Du 2 au 5 décembre prochain, à l'espace Claquesin de la Porte de Châtillon, 18 avenue du Maréchal Leclerc à Malakoff, présentation du Salon d'Art, Nature et Animaux. Renseignements au 01 48 87 19 67. Comptoir de Noël de l'école Charles de Foucault. Alors, le samedi 4 décembre, de 10h à 18h, 102 Terre, rue Garibaldi, à Saint-Maur-des-Fossés. Téléphone 01 42 83 66 69. Le samedi 4 décembre, à 17h, Madame Françoise Thom fera une conférence autour de l'évolution actuelle de la Russie post-soviétique. Ça se passe à la Maison Roumaine. 38 rue Ribera dans le 16e. Omnes Fratres annonce sa réunion mensuelle, 19 rue des Tanneries à Paris 13e, le dimanche 5 décembre prochain de 18h. Je ne sais pas s'il y a un numéro de téléphone. Bon, vous deviez en parler ça, Serge. Dimanche 5 et lundi 6.
Ah oui, dimanche 5 et lundi 6.
Saint-Nicolas.
Grand événement, c'est à Saint-Nicolas, à l'Alsaco. Alors, j'en reparlerai plus longuement, mais réservez déjà votre dimanche et votre lundi, enfin au moins votre dimanche, pour emmener vos enfants. Il y aura des cadeaux, il y aura du chocolat, il y aura plein de choses. Et puis pour les parents, il y aura des bonnes choses aussi. C'est chez l'Alsaco, notre ami Klaus Steger, le restaurateur de l'Alsaco, qui est rue Condorcet, je crois que c'est au 10 rue Condorcet. Et c'est toujours un moment de vraiment très très sympathique, de convivialité de la famille. Je vous laisse, ma chère Victoria, la parole, après avoir salué la patience de nos auditeurs, leur avoir donné rendez-vous la semaine prochaine et leur avoir dit rituellement « Dieu nous garde ».
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becketch avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 24 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 25, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas, Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Gloire est immortelle, volontaires et offices blancs, et votre agonie la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident.
Radio Courtoisie.